Le jazz, c'est un statement. C'est un engagement, en fait, personnel qui est très, très fort de la part des artistes. Donc, je pense que ça de façon structurelle, ça rend cette musique, en fait, particulièrement politique.
Et ça change aussi beaucoup de choses au son, mais aussi à l'enregistrement. Enfin, être dans un studio avec quasiment que des femmes.
C'est une dynamique
différente. En tout cas, une majorité de femmes. Ah, mais je sais pas si tu as déjà vécu ça, Léla, mais ça change tout, vraiment. Comme je viens de la pop, à l'origine aussi, je suis un peu remontée contre les plateformes de streaming, notamment celles qui commencent par Spotify. Mince, je l'ai dit.
Alors moi, j'ai accepté d'être présente sur les plateformes, mais pas à 100%, parce que j'avais pas envie de tout donner. En fait, la première fois que j'ai vu mon relevé de royalties des plateformes de streaming, je me suis dit, il y a un problème, en fait, on peut pas continuer comme ça.
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue à tous. Ça va, Daz ?
Et toi, Salman La Pêche, hein ?
Écoute, carrément, je suis d'autant plus heureux que l'on reçoit des invités de qualité, Daz.
Ouais, comme souvent, j'ai l'impression.
Comme toujours, évidemment. Ouais. Mais encore plus aujourd'hui.
Bien sûr.
Puisque nous sommes avec deux musiciennes.
Attends, de quel genre musical, s'il te plaît ?
Oui, on va reparler de jazz.
Waouh !
C'était déjà le cas dans l'épisode précédent.
Exactement.
Mais d'une manière différente, figure-toi.
D'accord.
Parce que tu vois, on avait parlé genre des esthétiques, tu vois, des nouvelles esthétiques jazz, etc. Plus des aspects vraiment, des différentes scènes, etc. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de jazz d'une manière un peu différente. Notamment, okay. Tu sais, ce que peut incarner cette musique en termes de pensée, d'idées, de combats éventuellement, etc. Parce que c'est une musique, en fait, qui, à travers l'histoire, a été plus d'une fois, tu vois, importante pour des communautés, etc. Et capable vraiment d'incarner des choses. Donc, Daz.
Oui.
Nous avons deux grandes passionnées pour discuter de tout ça. Parce que dans votre œuvre, on retrouve à la fois ces éléments-là. Vous pouvez en discuter aussi. On est avec Fleur Benguigui, on est avec Leïla Olivesi.
Bonjour, bienvenue mesdames.
Bonjour,
ça va ?
Merci messieurs.
Ouais, ça va. Très content d'être là.
Bah carrément, je suis très content de ce plateau. Ça a été un petit peu difficile à organiser, mais on a réussi. Merci Leïla d'ailleurs de t'être rendue disponible. C'était une période un peu chargée pour toi.
Avec plaisir.
Trop bien. Je vais vous présenter quand même très rapidement, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet d'Az de cette émission. Flore, je le disais, musicienne, tu écris, tu composes, tu interprètes. Beaucoup de gens t'ont découvert avec ton travail lorsque tu étais autrice, chanteuse au sein du groupe L'Impératrice. Un registre plutôt pop, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a une musique qui traverse toute ta vie, ton grand amour musical, c'est le jazz. C'est pour ça qu'elle est avec nous, d'Az. D'ailleurs, t'as fait, si je dis pas de bêtises, 6 ans de conservatoire option jazz, t'as été formée aussi au jazz.
Ah oui, bon après j'étais en conservatoire d'arrondissement à Paris en jazz, tout à fait, donc j'ai pas fait un conservatoire national, rien de prestigieux, mais oui, j'ai une formation.
En tout cas, oui, tu as étudié entre guillemets le jazz, violoncelle d'ailleurs, ça te plaisait moyen, c'est ça?
Oula, ça c'était avant, le violoncelle, même pas en jazz, le violoncelle pendant 10 ans, mais je suis extrêmement mauvaise. Désolée, on devrait même pas le mentionner en fait.
C'est vrai, pardon,
on
effacera.
Couper ça au montage.
Bio, mais... Et cet amour du jazz, tu le déclines de plein de manières. Parce que, évidemment, y a ton premier album solo, tout récent, qui s'appelle I-330, qui est sorti en mars, là, c'est ça hein ?
Ouais, il y a deux semaines.
Ouais. C'est un album de reprise jazz, de plusieurs autrices, auteurs, souvent anglophones, pardon, mais aussi, y a du Barbara, par exemple, dans l'album. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que t'as essayé de t'amuser autour de cette musique. Il y a vraiment un aspect ludique, de partage aussi. Il y a toute une équipe qui a été montée. D'ailleurs, souvent, beaucoup de femmes dans cette équipe. C'est un truc qui tient à cœur. Et puis, des sonorités en plus aussi étonnantes pour ce registre. Justement, presque aussi ludique, ces sonorités, peut-être plus synthétiques, etc. C'était une volonté. Tu t'es penché vraiment sur le son autour de cet album et de se dire, je vais utiliser tels outils, etc.
Justement, en fait, c'est comme tu le disais, c'est un album. C'est pas vraiment un album solo finalement, parce que c'est vraiment un projet collectif. Et
oui, je précise, c'est Fleur Benguigui and the Sensible Notes, voilà. Qui est le groupe qui t'accompagne. Quoi.
Tout à fait. C'était un collectif un peu à échelle variable en référence à la sensible en jazz. Et en fait. C'est du jazz, comme tu le disais, assez old school. C'est des morceaux des années 20, 30, 40. Mais l'idée, c'était de proposer autre chose parce qu'évidemment, c'est des morceaux il y en a qui sont assez niches et qui n'ont pas été repris depuis les années 30, mais il y en a aussi qu'on connaît un peu tous et toutes. Et l'idée, c'était d'essayer, à mon humble échelle, de proposer quelque chose d'un peu différent. Donc, j'ai essayé de mélanger les instruments acoustiques un peu traditionnels du jazz avec des synthétiseurs analogiques ou avec du vocodeur ou avec des effets aussi, mais toujours des effets analogiques. Enfin, en fait, l'idée, c'était de pas aller vers quelque chose d'électronique et froid, mais toujours quelque chose d'un peu ludique, quand même humain, malgré tout, le côté un peu humain de la machine, quoi.
Et on en reparlera, c'est une vraie geek, elle kiffe trop le matos et tout. Et d'ailleurs, vous avez créé un outil spécifique, vous avez assemblé plein de trucs et tout. On en parlera, c'est pas intéressant. Et je disais que cet amour donc, du jazz, tu le déclines de plusieurs manières. Il y a cet album, évidemment, qui est récent, mais même dans tes travaux à côté, alors notamment, t'as monté un collectif qui s'appelle Chercher la femme. Et dans ce collectif, alors c'est pas exclusivement jazz, mais tu mets quand même souvent en avant cette musique. Déjà, vous luttez pour plus de visibilité des femmes, parce qu'on sait qu'effectivement, dans la musique, c'est pas toujours le cas, malheureusement.
Ah oui.
Dans le jazz, encore plus particulièrement.
Oh oui.
Ça vous a amené d'ailleurs à créer des jams jazz spécifiques, qui aujourd'hui d'ailleurs s'appellent Chercher la jam. Enfin, il y a eu plusieurs formes, mais la toute dernière, Chercher la jam, ça se passe où d'ailleurs?
Ça se passe à la petite halle de la Villette à Paris. C'est des mensuels qui vont avoir un an le mois prochain. Et c'est des soirées mixtes où tout le monde peut rentrer, tout le monde peut venir écouter, c'est gratuit. Mais la scène est réservée aux femmes et minorités de genre. Parce que c'est un constat que j'avais fait déjà quand j'allais beaucoup en jam quand j'étais au conservatoire il y a plus de 10 ans, mais qui a pas, enfin le constat a pas beaucoup changé aujourd'hui. Les jams restent des lieux très importants dans les carrières des musiciens musiciennes de jazz, mais ce sont des lieux où les femmes sont très peu représentées sur scène, et donc c'est des lieux qui sont difficiles d'accès pour les femmes, et qui peuvent même être dangereux finalement, parce que c'est des espaces nocturnes où on a consommé de l'alcool, et donc c'est pas très safe comme endroit. Et comme c'est un peu un passage obligé, et ben l'idée c'était d'essayer de rendre ce passage obligé le plus agréable, en tout cas le moins traumatisant possible. Du coup, on a créé ces jams-là qui sont vraiment des endroits, des espaces magnifiques.
Ça avait pris aussi, ce collectif Chercher la femme, a pris aussi la forme d'un podcast. Alors là, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu d'épisode, mais hyper intéressant, où elle explore la place des femmes à différents moments, dans différents univers, etc. Des pionnières, que ça soit d'un point de vue technique ou dans des métiers, les ingé sons, des choses comme ça. C'est hyper bien.
Merci.
Ouais. Ça va revenir, je pense.
Écoute, j'espère.
Espérons-le. Bref, voilà, pour toi, la musique, c'est l'occasion vraiment de poser aussi un regard sur le monde qui nous entoure. Chose qu'on retrouve aussi dans le travail de Leïla Olivesi. Je te présente aussi quand même. C'est une grande pianiste, ce qu'on a avec nous. Pianiste jazz, certes, tu composes, chef d'orchestre aussi. Tu fais plein de choses. T'as commencé le piano à l'âge de 10 ans, si je dis pas de bêtises.
Vous êtes bien renseigné.
Écoute, on essaie. Très tôt, d'ailleurs, t'es monté sur scène. Ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'il y avait je sais pas s'il existe encore, un groupe composé d'enfants qui s'appelle Les Petits Loups du Jazz. Et toi, à quel âge tu t'es retrouvé sur scène?
Alors, quand on a enregistré notre premier album, j'avais 13 ans.
Ah ouais.
Et en fait, très rapidement, parce qu'au départ, c'était pas un projet de troupe de spectacle vivant, en fait. Cette aventure est née des colos qu'on faisait l'été, des colos musicales dans la famille Caillard. On se retrouvait avec tout un tas d'instrumentistes, de classiques et de jazz d'ailleurs. Et en fait, pendant les semaines de colo, on se retrouvait le matin pendant une heure pour chanter tous ensemble. Et Olivier Caillard, qui dirigeait ce moment-là, qui était pianiste de jazz lui-même, et c'était aussi mon prof de piano jazz d'ailleurs, comme sa musique c'était le jazz, il voulait nous faire chanter du jazz. Et il n'y avait pas vraiment de chansons de jazz en français. Toutes les paroles étaient en anglais, donc on a créé nous-mêmes des paroles en français pour pouvoir chanter les standards de jazz. Et en fait, d'année en année, le répertoire s'est agrandi à tel point qu'un jour, il s'est dit « bah, ce serait sympa d'enregistrer ». Donc il a rappelé tous les enfants qui avaient participé au colo en disant « est-ce que ça vous dit de venir en studio ? On va chanter ensemble les chansons qu'on a inventées ». Et en fait, le disque a tellement bien marché qu'au bout d'un moment, il s'est dit « on va faire des concerts ». Donc il a rappelé tous les enfants qui avaient participé à l'enregistrement du disque en leur disant « est-ce que vous voulez faire des concerts ensemble ?»
Mais attends, je te coupe juste un instant parce que moi, je connais tous les morceaux par cœur. J'adorais les petits loups du jazz, mais je suis estomaquée que tu sois dedans, c'est génial.
J'ai perdu mes chaussettes.
Mais oui,
c'est moi, j'ai perdu mes chaussettes, c'était moi.
Mais non.
Ouais, et j'ai perdu mes lunettes. C'était même ma copine qui était à côté de moi.
Mais c'est incroyable. Je suis fan. Je te demanderai un autographe.
Est-ce que ça a d'ailleurs été un projet, enfin, qui a eu une génération, entre guillemets, un album, une tournée, ou est-ce qu'ensuite il a perduré ce groupe?
Et... Ah oui, ça a perduré. Ouais, en fait, ça a marché vraiment bien. Donc, on a fait 3-4 disques ensemble.
Ok,
ah,
quand même. Ouais.
Au bout d'un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Olivier Caillard avait envie de quitter Paris. Il est parti s'installer vers Montpellier.
Ok.
Et là, c'était vraiment terrible pour nous, parce que pour nous, c'était une deuxième famille, en fait. Et donc, il a remonté il a continué à travailler avec des enfants vers Montpellier. Et nous, on s'est sentis un petit peu orphelins. Donc, on a monté un groupe vocal qui s'appelait les Locas, avec les grands loups, parce qu'on avait grandi. Et moi, j'étais moi-même au piano. J'ai appelé des amis, des copains musiciens pour qu'on joue ensemble. Et on a continué à essayer de créer. Puis bon, au bout d'un moment, j'ai monté un groupe par ailleurs et ça s'est poursuivi ailleurs.
Rigolo, hein, ouais, si tôt. Et puis quelle chance aussi d'avoir cette expérience très tôt. Je suis sûr que ça a fait de toi une meilleure musicienne, d'enregistrer, de jouer live,
cette
etc.
expérience, ouais. Ouais. Et puis surtout, on a rencontré des musiciens fabuleux, parce qu'il y avait des super musiciens. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter, en fait, les musiciens et les musiciennes de jazz français. Par exemple, Al Levitt. Oui, d'ailleurs, il y avait des Américains aussi. Al Levitt, Glenn Ferris, que j'ai rencontré là et que j'ai rappelé pour un de mes albums, ensuite La Suite en Daman. Et quand il me voit, il me dit toujours « Ah, petit loup !» voilà, j'adore Glenn. Il y avait les frères Belmondo. On a enregistré aussi un disque avec Stéphane Grappelli.
Ah ouais.
C'était quand même extraordinaire. Et puis, c'était vraiment une belle aventure. Il y avait aussi Alain Jean-Marie qui avait participé.
Oui, il faut dire que tu es formé toi aussi au conservatoire. Alors, jazz évidemment, mais aussi écriture classique.
Ouais.
Ouais, c'est vraiment ces deux univers que tu explores, la musique dite classique et le jazz. On le retrouve un peu moins dans ta discographie, mais c'est quand même, j'imagine, présent dans ta manière d'écrire, de composer, je sais pas.
Bah, en fait, le jazz, c'est une musique qui se nourrit de toute la musique et qui vient à la fois des musiques qui venaient d'Afrique, mais aussi d'Occident. Et donc, je pense que quand on veut vraiment comprendre l'écriture, que ce soit jazz ou classique ou quoi que ce soit, en fait, c'est bien de pas avoir de frontières, de style. Donc, moi, j'étais très intéressée par l'écriture, comme on dit, classique, c'est-à-dire de tradition savante occidentale. Mais j'ai fait aussi des cours d'orchestration qui m'ont servi, parce qu'en fait, j'aime bien écrire pour les grands ensembles. Et quand j'ai écrit pour orchestre symphonique, plus big band, plus chœur, c'était pas mal d'avoir cette formation un petit peu solide.
Alors, c'est rigolo que tu parles de grands ensembles. Enfin, c'est pas des grands ensembles, mais il y a un truc hyper marquant dans ta carrière. Donc, t'as fait plein de disques dans ta carrière. Et alors, c'est marrant parce que c'est parfois en trio, parfois en quartet, parfois en quintet, parfois en octet d'az, et même en nonet. Je savais même pas que ça existait, nonet, je sais pas comment il faut le dire.
Ouais.
Je ne connaissais pas.
Le nonet.
Pour moi, c'était une pâtisserie, les nonettes. Un truc comme ça, non,
bon, ouais. Donc, nonette, c'est quoi? C'est neuf?
Ouais. On était neuf. Avec Glenn Ferris au trombone, justement.
Bah, c'est le Wu-Tang.
C'est le Wu-Tang. Leïla, c'est le Wu-Tang. Ouais, il y a des collaborations aussi. T'as m'écrit même pour des films. Parfois aussi, on peut te solliciter pour des créations originales. C'était le cas, par exemple, avec Rhapsody in Black. Mais on en reparlera.
Ouais.
En plus de ça, Leïla, elle enchaîne les distinctions, prix du disque français de l'Académie du Jazz en 2025, prix Django Reinhardt en 2022. Bon, je vais pas toutes les citer, il y en a plein d'autres. Et alors, attends, ça s'arrête pas là, Daz? Parce que, comme Leïla est une femme brillante, elle est aussi diplômée en philosophie.
Ah bah oui.
Docteur en musicologie.
Ah bah d'accord.
Et t'as notamment beaucoup travaillé sur Duke Ellington. Et je pense que on va utiliser ce savoir, et certainement que j'imagine que la figure de Duke Ellington va revenir. Flore, toi, tu connais bien Duke Ellington? Enfin, c'est
en trois dates, s'il te plaît.
J'ai pas fait de thèse autour de Duke Ellington, donc je me contenterai d'acquiescer et de regarder avec admiration en parler.
Est-ce que c'est un personnage et une musique qui touche l'œuvre de Duke Ellington?
Oui, bien sûr. Bah, ouais. Ça fait partie des figures un peu incontournables du jazz. Donc oui, bien sûr. Mais moi, je me suis plus intéressée aux figures de femmes, je pense, ces dernières années, en priorité. Mais évidemment, ça fait partie des grands.
Donc là, t'es docteur en Duke Ellington, on peut dire.
Ça. Si vous avez mal au foie du Duke, je pourrais peut-être avoir un médicament.
Ah, ça fait joli sur une carte de visite.
Effectivement. Bon, on l'a compris, vous êtes toutes les deux de grandes amoureuses du jazz. Et puis aussi de sa dimension justement politique. Ça va être vraiment l'un des points centraux de cette émission.
La politique dans la musique, Salman.
Ouais. Hey, Comme quoi, tout est
quoi
politique, Daz, allons.
Ah bon, mais pas du tout, pas de politique dans ma musique, s'il vous plaît.
Mais tu sais quoi, par contre, avant qu'on parle de ça, j'en profite pour remercier quand même Laurent De Wilde, grâce à qui on a rencontré Leïla et grâce à qui ça a pu se faire cette émission.
Voilà. Les connexions se font, t'entends ?
Exactement.
Bien sûr.
Bon, Flore, Leïla, peut-être Flore d'ailleurs, on peut commencer avec toi. Est-ce que tu te souviens du moment où, dans la musique jazz, il y a un artiste, une artiste, quelqu'un qui t'a marqué, non pas seulement pour sa musique, parce que j'imagine, tu vois, qu'il y a plein de morceaux, plein de trucs que t'aimais déjà, mais où tu t'es dit, purée, ce qu'incarne cette personne, sa vie éventuellement, ou ce qu'elle a pu dire, là, il y a un truc qui se passe, qui me touche, tu vois. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie comme ça, où une première figure qui a été hyper importante?
Bah, outre les petits loups du jazz, parce que vraiment, genre, vraiment, en plus c'est marrant parce que c'est la première fois que ça me frappe à ce point-là que, en fait, mon premier lien avec le jazz, je dis souvent que c'est Chet Baker, mais en fait pas du tout, c'est les petits loups du jazz.
Ah ouais.
Premier.
Génial.
Bah, non, mais ça paraît fou, mais tu vois, il y a plein de standards que je connais depuis, que je connais par cœur depuis l'enfance. Bon, avec des paroles en français qui ont été inventées par des enfants, mais.
Où sont
mais,
mes chaussettes?
Voilà, j'ai perdu mes chaussettes, j'ai perdu mes lunettes. Mais finalement, ça m'a déjà imprégné et je connais toutes ces mélodies par cœur grâce aux petits loups du jazz. Donc franchement, ce serait peut-être mon premier. La première incursion du jazz dans ma vie, mais sinon peut-être la première figure marquante. Alors malheureusement c'est un homme, mais c'est Chet Baker. Je pense quand j'avais à peu près 15 ans, et c'est vraiment sa façon, Chet Baker en tant que chanteur, qui m'a vraiment beaucoup marqué, parce que je pense que surtout moi, je pense que c'était les années 2000, et c'était une période où en termes de voix. Pas dans le jazz, mais plutôt en général, c'était une grosse période pour les chanteuses à voix, les chanteurs et chanteuses à voix, avec beaucoup de voix très fortes, très poussées, puissantes. Ouais. C'était vraiment la mode à ce moment-là. Et je pense que le hasard a fait que j'ai découvert Chet Baker à ce moment-là, parce que on s'échangeait beaucoup nos iPods à cette époque. Je sais pas si vous vous rappelez de cette époque, mais on mettait des albums sur les iPods de nos amis. Et j'avais un ami qui m'avait mis l'album de Chet Baker Sings. Et voilà, je me rappelle de cette version de But Not For Me qui m'avait, transpercée. Parce qu'il a cette voix un peu, sur un fil, cette espèce de douceur et en même temps de virtuosité. Et en plus, ce qui est assez fou, c'est que j'ai appris bien plus tard que l'enregistrement de ce disque avait été assez chaotique et très difficile pour lui, et que le producteur du disque avait même songé à abandonner, parce que, en fait, soi-disant, Chet, il chantait faux, il avait pas de souffle, il arrivait pas à tenir les notes parce qu'il n'était pas habitué à chanter, etc. Alors qu'en fait, cet album, il est justement d'une fragilité et donc d'une beauté. Absolu. Et je pense que c'est la première figure qui m'a vraiment
Il y a un morceau sur touché. Cet album qu'encore aujourd'hui tu retiens, un morceau spécifique, un extrait dont tu
penses? But Not For Me, vraiment. Je sais pas, il y a quelque chose dans son interprétation de ce morceau qui m'a toujours beaucoup touché. Et puis même le solo, enfin, je connais son solo par cœur aussi dessus. Enfin, j'adore.
Bon, on s'écoute un petit extrait pour continuer la discussion.
Balance. They're writing songs of love, but not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hoe alas and also lackaday, although I can't dismiss.
C'est marrant, est-ce que. Parce que tu sais, il y a parfois. Ça arrive souvent à l'adolescence. tu sais, ce truc où il y a une espèce d'obsession autour d'un artiste, d'une œuvre. Et puis on commence justement à fouiller un peu, pas seulement écouter sa musique, mais commence à fouiller sa vie. C'est justement ça, c'est pour ça que tu as dit aussi Chet Baker. Tu vois, la question portait sur cette idée qu'il incarne quelque chose, enfin une première figure marquante. Est-ce que ça t'a amené à t'intéresser à sa vie, par exemple?
Alors pas, enfin oui, je me suis intéressée à sa vie, mais j'ai quand même découvert assez vite que c'était pas quelqu'un de très fréquentable pour le coup.
ça fait rien les gars.
Et ce qui est quand même le cas pour beaucoup de jazzmen, hein, on va pas se voiler la face. Mais je pense que c'est peut-être ça qui m'a poussée à me passionner et à devenir même quasi monomaniaque d'un autre jazzman qui s'appelle Nat King Cole et qui pour le coup lui a vraiment été mon obsession pendant beaucoup beaucoup d'années. Et ce qui a fait que sur le disque que j'ai sorti, par exemple, il y a des morceaux, deux morceaux notamment assez obscurs qui ont juste été chantés par Nat King Cole dans les années 30, parce que je suis devenue vraiment fan hardcore. Et pour le coup, en plus d'un artiste qui a vraiment avait l'air d'être quand même vraiment un type bien, quoi. Contrairement à beaucoup d'autres. Et Nat King Cole, qui a eu une carrière, en plus de crooner, dont on connaît beaucoup sa carrière de crooner, mais pas tant sa période trio, qui est vraiment les années 30, et qui est une période très prolifique, et en plus extrêmement intéressante en termes de son, en termes de groove, de jeu, d'écriture. Enfin, c'est vraiment, c'est un artiste dont on connaît pas trop cette facette et un pianiste aussi extraordinaire. Enfin, Leïla, je pense que tu confirmes, qui a inspiré beaucoup des plus grands. Donc ouais, c'était mon obsession a très vite dévié de Chet Baker à Nat King Cole. J'adore toujours Chet Baker, mais bon, je pense que il y a plein de choses qui allaient pas trop aussi chez cette personne.
C'est avec le jazz ou est-ce que c'était aussi valable pour d'autres musiques que tu pouvais écouter? Parce que j'imagine que t'écoutais aussi plein d'autres trucs, tu vois. Que vraiment t'es passé de ce truc de la musique, c'est plus que de la musique, c'est pas juste des morceaux qu'on écoute sur, tu vois, un disque, etc. Mais c'est aussi des vies autour, des, tu vois, de la symbolique, des communautés, une histoire, éventuellement un patrimoine, tu vois. C'est à travers le jazz ou, enfin, cette dimension de la musique, elle t'est venue naturellement, c'est un truc qui t'a vite intéressé ou pas forcément?
Oui, je pense que j'ai commencé à faire des concerts de jazz à l'adolescence sans avoir de formation jazz. Donc je pense que j'ai un peu compensé aussi en essayant de m'intéresser à cette musique et à son histoire, plutôt que, comme j'avais pas vraiment de bagage théorique, je suis arrivée en conservatoire de jazz quand j'avais 20 ans. Donc en fait, j'ai commencé à faire des concerts quand j'avais à peu près 17 ans dans le sud de la France, parce que j'ai appris avec des musiciens de jazz qui étaient plus âgés que moi. Et donc je pense que j'ai peut-être essayé de compenser cette absence de technique, disons, avec un espèce d'attrait pour l'histoire de cette musique. Et donc quand je faisais des concerts, et je le fais encore beaucoup aujourd'hui, et j'aime bien raconter toutes les histoires qu'il y a autour des morceaux, de leurs auteuristes, compositeuristes, et parce qu'il y a souvent, enfin c'est une musique qui est chargée d'histoires, et il y a souvent des histoires absolument extraordinaires, et parfois aussi assez rocambolesques, parfois drôles, parfois extrêmement tristes et tragiques. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je me suis vraiment passionnée pour l'histoire aussi du jazz.
Toi, Leïla, alors Flore nous disait Chet Baker, Nat King Cole. Il y a eu, toi, dans ton parcours peut-être d'adolescent, je sais pas, plutôt plus tard, mais des figures comme ça, qui, non pas seulement vraiment pour leur musique, hein, mais vraiment cette idée qu'elles peuvent incarner quelque chose, et ça t'a donné envie de t'intéresser à leur vie. Il y a eu des personnes comme ça?
Alors, il y a eu une figure très marquante qui a traversé ma vie quand j'avais 3-4 ans. Okay. C'est Nina Simone.
Déjà si tôt, t'as 3-4 ans.
3-4 ans.
Oui, parce qu'en fait, ma mère était très amie avec Nina Simone
début
des années 80. et en fait, elles se sont rencontrées d'abord ce qui les a mises en fait sur le même chemin, c'est parce qu'elles aimaient toutes les deux le jazz. Ma mère n'était pas musicienne, elle travaillait dans le cinéma, mais elle était vraiment une grande, grande fan de jazz et une grande fan de Nina Simone. Et en plus, c'était quelqu'un de très militant politiquement. Et donc, elle est tombée complètement amoureuse du personnage, en fait, de Nina Simone. Elles se sont rencontrées comme ça à Paris, et à tel point que donc elles sont devenues amies. Et finalement, Nina Simone est venue habiter chez moi pendant deux semaines, donc quand j'étais toute petite. Et avoir Nina Simone dans son salon, c'est quand même, ouais, c'est quand même un événement voilà, fort. Donc c'était, enfin moi je savais pas encore, je connaissais pas encore très bien le jazz, etc., même si c'était très musical chez moi, il y avait toujours beaucoup d'artistes qui venaient, et donc avec ma mère, enfin j'étais vraiment biberonnée à Coltrane, Miles Davis, Charlie Parker, la musique de la Nouvelle-Orléans, et donc Nina Simone et le tango. Et donc cette espèce de grand mélange, enfin le tango de Piazzolla en particulier. Et voilà, ce grand mélange a fait que finalement le jazz a grandi dans mes oreilles et dans mon univers de façon assez naturelle. Mmh. Et après, mon grand coup de cœur musical, le premier grand bouleversement que j'ai ressenti quand j'étais adolescente, c'était John Coltrane. Et en fait, la spiritualité, la puissance qui se dégageait de son quartet avec McCoy Tyner en particulier, m'ont vraiment bouleversée, et j'étais une inconditionnelle de cet artiste. Donc je suis allée acheter tous ses disques à la Fnac, voilà, j'étais devenue un peu geek de Coltrane.
Il y a un morceau, ouais.
Alors,
ouais, écoute, un morceau, un extrait. Ouais.
Alors il y a un morceau que j'adore, c'est Crescent, qui est un morceau vraiment extatique, qui m'a vachement marqué, que j'aime beaucoup écouter encore aujourd'hui.
Eh ben on s'écoute un extrait alors.
Allez. Allez.
J'ai vu Daz enlever un peu ton
comment tu fais pour...
par rapport au mix, non?
Ou... ouais. Comment tu fais pour partager ça avec quelqu'un en lui filant une oreillette et il entend rien?
C'est vrai qu'il y a la batterie tout à gauche.
Ouais.
C'est marrant.
Le sax à gauche.
Ouais.
Et la section rythmique à droite.
Ah ouais, moi je l'ai à gauche, la section rythmique à droite. Ouais. Enfin bon, en tout cas, oui, c'est très, ouais, très stéréo, vraiment très à gauche.
Comment
à droite.
Tu partages ça dans le bus pour aller à l'école? Tu dis, tiens, écoute!
Mais tu prends ton ghetto blaster.
Ah, okay.
On est tous d'accord.
Coltrane sur le ghetto blaster. Écoute,
ouais, ça peut donner un truc. Hein.
Ah oui, j'ai fait ça.
C'est vrai?
Ouais.
Tu partageais ta musique dans la rue comme ça?
Ouais, pour tout vous dire, en fait, ma mère est décédée quand j'avais 17 ans. Ouais. Et en fait, on a fait une procession musicale. Donc c'était au Père Lachaise, et ça c'était un des premiers morceaux que j'ai mis, et on portait vraiment la musique sur le ghetto blaster et on marchait avec, et c'était vraiment un moment incroyable.
Ouah, c'est beau.
Oui.
Mais comment alors, parce que le jazz,
oui,
musique exigeante, musique technique,
c'est vrai.
Comment bon, alors effectivement, si t'as Nina Simone qui habite chez toi, j'imagine que c'est quand même une porte d'entrée. Mais je veux dire, à l'adolescence vous étiez en décalage peut-être avec les gens de votre âge qui n'étaient pas forcément versés dans la même... Comment ça se passe, ça? Comment on le vit, ça?
Ouais, je suis toujours en décalage,
ouais,
je pense. Okay. Je vis en perpétuel décalage. Mais de temps en temps, il y a quelques bribes du monde...
qui arrivent...
du monde mainstream qui arrive jusqu'à moi. Mais c'est vrai que j'ai eu une éducation... musicale assez particulière, et que je me suis... en fait, j'avais envie quand même de partager des musiques pop que mes amis aimaient bien. Donc de temps en temps, j'allais prendre, je sais pas, un album des Beatles. J'ai même écouté Metallica.
Okay.
bon, voilà, quelques artistes comme ça qui arrivaient jusqu'à moi, mais de façon générale, j'avais pas forcément les mêmes références que tout le monde, mais en fait, c'est pas un problème parce que, comme disait Duke Ellington, il y a pas vraiment de problème de style. Il y a la bonne et la mauvaise musique. Et pour moi, il y a des super trucs de rap, des super trucs de, enfin voilà, dans plein de styles qui existent. Même si moi, effectivement, j'ai passé beaucoup plus de temps à écouter du jazz qu'autre chose. J'arrive à apprécier quand même de bonnes musiques qui sont ailleurs. Et par exemple, j'adore la musique hindoustanie, d'Inde du Nord. J'adore la salsa cubaine. Voilà. Donc après, je pense qu'il y a, une certaine sensibilité qui se construit. Donc j'ai une sensibilité harmonique assez forte. Je sais que voilà, les inflexions harmoniques de certaines musiques qui sont même pas du jazz parfois peuvent vraiment me toucher. Et donc ça se passe ailleurs que juste au niveau du style.
D'accord. Toi, Flore, du coup, c'est...
Moi, je pense, senti un peu en décalage quand j'étais ado. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire du jazz, c'était avec des musiciens un peu plus âgés, qui avaient 10-15 ans plus que moi. C'est toujours les mêmes avec qui je joue aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai jamais arrêté de jouer avec eux. Donc, ça fait 16 ans qu'on joue ensemble. Et donc, en fait, j'ai plutôt senti que c'était un moyen de connecter avec eux à ce moment-là, enfin dans le sens où je sais que j'avais mon petit monde du jazz avec eux, et puis après j'écoutais aussi des choses plus modernes entre guillemets, et bon, j'étais très fan des Beatles par exemple aussi, ce qui n'était pas forcément hyper actuel dans les années 2000, et puis même tu vois, quand j'étais dans l'Impératrice pendant 9 ans, j'avais une résidence dans un club à Paris qui s'appelle Le Baiser Salé. J'ai eu une résidence là-bas de 2014 à 2025, tous les deux mois. Donc en fait, même quand j'étais vraiment dans la pop et où je faisais des concerts vraiment voilà, très calibrés pop, et où même je composais et j'écrivais vraiment dans la pop, j'avais quand même encore un pied dans le jazz, jouer tous les deux mois dans un petit club à Paris. Et donc je jouais ces vieux morceaux que j'adore et que j'écoute depuis que je suis adolescente. Donc en fait, j'ai toujours senti que ça faisait un peu partie de toute la même chose. Enfin, j'ai jamais trop scindé. Je pense que même le jazz, ça m'a aussi grave aidée et inspirée en tant que compositrice dans la pop. Je pense que j'ai composé tous les morceaux dans l'Impératrice en improvisant sur les instrumentaux que les musiciens du groupe faisaient. Donc je pense que mine de rien, tout ça, ça m'a nourrie. Donc je dissocie pas mon amour du jazz de toutes les autres musiques en fait.
Si on veut, pour revenir à cette histoire un peu de voilà, comment le jazz peut porter des idées, voire des combats, est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité du jazz d'ailleurs dans sa dimension politique, ou est-ce qu'en fait c'est valable pour toutes les musiques, ou est-ce qu'il y a quand même une histoire particulière pour le jazz ?
Oui, je pense que le jazz est une musique politique.
Plus que d'autres ?
Oui. Alors, plus que certaines peut-être. Pas toutes, évidemment, hein, mais il y a plein de musiques qui sont politiques. Mais c'est vrai que la façon dont c'est né, dont ça a été produit et revendiqué par les musiciens afro-américains aux États-Unis, c'était clairement politique. Après, je pense qu'il faut distinguer, même si les racines de cette musique sont donc... très fortement et politique et historique et en fait enraciné dans l'histoire de l'esclavage, de la traite négrière, de transatlantique et voilà, de l'évolution de cette population en fait, qui était beaucoup dans le sud des États-Unis et qui après au niveau de l'émancipation a commencé à migrer vers le nord, et c'est là que le jazz est né en fait. Je pense que on peut trouver des revendications comme ça assez claires chez certains artistes, et en même temps il y a certaines prises d'opposition qui sont musicales et qui sont pas forcément revendicatives chez certains artistes. Par exemple, je repense à Duke Ellington puisque c'est un sujet que j'aime particulièrement. C'est une personne qui a été prolifique, qui a vraiment créé pendant 50 ans de façon ininterrompue en permanence de la musique, à qui on a à un certain moment reproché de pas prendre position politiquement, alors qu'en fait c'était pas vrai. Ça a été un des premiers à créer par exemple un show, une comédie musicale qui s'appelle Jump for Joy en 1941, qui justement essayait de mettre à mal et de désinguer complètement le mythe de l'oncle Tom en donnant la la parole aux États-Unis noirs, donc aux Afro-Américains.
Il nous rappelle juste ce mythe autour de l'oncle Tom.
C'est l'idée que en fait le nègre est quelqu'un de d'idiot qui est là juste pour amuser la galerie et servir les blancs et voilà. Et en fait lui il a dans Jump for Joy, en fait il porte vraiment et la fierté du peuple noir et un vrai discours qui est tenu par les noirs sur eux-mêmes et sur leur propre histoire, en fait ce qui n'existait pas du tout à l'époque. Et ensuite, il a composé, par exemple, une autre comédie musicale qui s'appelle My People, qu'il a créée à l'occasion du centenaire de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, à Chicago, et à l'occasion duquel il a rencontré Martin Luther King. Et en fait, il a en permanence, tout au long de sa carrière de compositeur, composé des œuvres qui essayaient de faire passer un message, comme par exemple la suite Black, Brown and Beige, qu'il a créé en 1943 au Carnegie Hall, premier concert de Duke Ellington au Carnegie Hall, qui était le lieu vraiment super mythique de la musique classique. Voilà, et donc le fait qu'il y ait du jazz et qu'il y ait un Afro-Américain comme ça qui compose de la musique. Donc il avait créé Black, Brown and Beige pour cette occasion-là. Et en fait, ça racontait non pas l'histoire du peuple noir américain, mais l'histoire du regard porté sur le peuple nord-américain. Et en fait, ça commençait par Black, c'est-à-dire que voilà, c'était le blues, l'esclavage, tout le côté vraiment dark en fait de cette histoire. Et puis progressivement, ça allait vers la lumière. Et donc il y avait comme ça une espèce d'espoir très magnifique qui donnait à travers cette œuvre-là. Donc je pense que le jazz porte de toute façon naturellement toutes ces revendications d'émancipation, d'égalité. Et de fraternité aussi.
Et ça aussi, même si les artistes ne le revendiquent pas frontalement, en fait. C'est ça que tu veux dire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Ellington, il ne descendait pas dans la rue pour faire les manifs. Mais par contre, dans sa musique et dans les mots qui passaient aussi à travers sa musique, là, il y avait clairement un discours très fort.
Flore, tu semblais acquiescer de dire oui, il y a quand même une dimension politique peut-être plus présente que dans d'autres esthétiques musicales. Tu vas dans le sens de Leïla et...
Oui, bien sûr. Bah, je pense que, comme disait Leïla, par essence, de toute façon, c'est une musique qui porte une histoire tragique qui a été portée par des minorités. Donc, évidemment que dès l'origine du jazz, c'est politique. Et c'est politique d'avoir joué cette musique. Et surtout quand on était noir américain à cette période-là, notamment. C'est à l'inverse, enfin, je veux dire, ça a aussi été difficile d'être une musique, enfin, de politiser le jazz dans le sens où je pense à par exemple Nina Simone, qui est une artiste qui a vraiment été très frontalement politisée, notamment à travers sa musique et à travers ses textes et ses prises de parole, et qui a vécu un enfer à cause de ça.
Parce qu'on l'attaquait.
Ah bah oui, on l'attaquait. Enfin, et puis même il y a eu ce moment où elle a sorti Mississippi Goddam, par exemple, qui est un morceau donc qui fait référence au massacre perpétué par le Ku Klux Klan en Alabama. C'est en 63, il me semble. Dis-moi si je me trompe, Leïla, mais je crois que c'est 63. Cette église baptiste, justement. Incendié par le Ku Klux Klan, et Mississippi Goddam, qui est le morceau qui, selon même Nina Simone, enfin je la cite, a le plus nuit à sa carrière, parce que c'est un morceau politique extrêmement sombre et dans le, enfin à cause duquel elle a reçu des disques brisés par la poste, elle a été blacklistée partout, enfin c'est vraiment ça a entraîné aussi une vraie descente aux enfers pour elle. Donc je pense que c'était aussi une musique qui aussi a été qui était politique par essence, et il y a certains artistes qui ont poussé en plus jusqu'à voilà y ajouter un message politique clair et fort, puissant, courageux, et ça a été très difficile pour ces artistes là.
Daz, tu as un peu cette image aussi, tu sais, quand tu t'intéresses au jazz, faut s'intéresser un peu à l'histoire, enfin tu vois, et que ça soit si prégnant, tu vois, dans cette musique.
Oui, parce que c'est indissociable en fait. Ouais. C'est sûr que quand tu compares à de la musique pop qui est faite pour être vendue et consommée, bon bah le jazz, il y a quand même une spiritualité, il y a un engagement politique, il y a des choses qui, sachant qu'en plus, donc Duke Ellington, il est né quoi à la toute fin
1899.
Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que sa vie d'adulte, c'était toujours l'Amérique ségrégationniste. C'est pour ça qu'on parlait aussi beaucoup du fait que la France soit vue comme une terre d'accueil pour beaucoup de musiciens de jazz qui ici pouvaient en fait s'exprimer, alors que là-bas ils étaient encore soumis à des lois qui les empêchaient de d'avoir accès à certaines salles, etc. Donc tu reçois des gens en France notamment qui viennent jouer de la musique parce qu'en fait ils sont pas libres de le faire chez eux. Bon bah, je veux dire, t'as rien de plus à dire que tu vois. Évidemment que cette musique, elle est, enfin pour moi, l'histoire du peuple afro-américain est complètement indissociable de la musique. Oui, pardon.
Ça me fait penser à un petit détail d'ailleurs intéressant sur comment les musiciens afro-américains ne choisissaient pas leur public. C'est qu'en fait, aux États-Unis, donc les groupes de musique afro-descendants, comme Duke Ellington, jouaient pour des publics de blancs, très souvent. Et par exemple, il a refusé d'aller faire une tournée dans le sud pendant très très longtemps, parce qu'en fait, il savait qu'en descendant dans le sud des États-Unis, il allait être confronté à des incidents et à des...
Comment dire, forcément,
à des... Voilà, des comportements racistes vraiment violents. Et donc, il a refusé pendant très longtemps de faire une tournée dans le Sud. Finalement, il a accepté de le faire à condition de ne pas avoir à dormir à l'hôtel et aller au restaurant, etc., réserve noire, parce que c'était vraiment un enfer à ce moment-là. En fait, ils avaient construit des rames, des wagons labellisés Duke Ellington Orchestra, dans lesquels ils dormaient pendant toute la tournée. Donc en fait, ils n'avaient pas besoin de... En fait, ils sortaient que pour aller faire le concert.
Ils n'avaient pas besoin de se heurter, en fait,
exactement,
à la ségrégation
à s'affronter, voilà. Ouais. Et parfois, ça pouvait même être dangereux, en fait. Il y avait certains artistes noirs qui étaient trop bien habillés et qui se faisaient attaquer dans la rue. Donc un truc de dingue. Et donc, et finalement, quand ils faisaient ces tournées-là, il acceptait donc de jouer devant des publics de blancs, et il insistait pour qu'à chaque fois on organise en parallèle un concert pour un public uniquement noir, même si c'était pas spécialement rentable, etc. Mais en fait, il avait envie de transmettre sa musique à tout le monde. Et que du coup, le public, même s'il fallait le faire en deux fois, le public général pouvait quand même recevoir sa musique et son message.
C'est ça qui est fou, en fait, c'est quand on parle de cette musique, on pense aux musiciens qui la faisaient, mais le public, t'imagines, enfin moi je sais pas, je suis un blanc d'Alabama, je vais voir un gars sur scène dont je sais très bien que s'il était pas musicien, il aurait même pas le droit d'être dans le même espace que moi, enfin ça me rend ouf, moi, tu vois, de me dire comment tu peux consommer ça. Et après, rentrer chez toi et la vie continue. Et puis, t'as des restaurants réservés aux blancs. Et tu vois,
c'est assez intéressant parce que c'est vrai que cette musique porte dès le début aussi des défis, des problématiques qu'on retrouve même encore aujourd'hui d'ailleurs. Tu vois, par exemple, la question de l'appropriation culturelle. J'ai découvert en préparant cette émission que le premier enregistrement de l'histoire, si j'ai bien compris, jazz en 1917, c'est fait par un groupe de blancs.
Oui.
C'est les Original Dixieland Jazz Band.
Oui.
Et ça pose une vraie question parce que à la fois, vous me dites, vous connaissez certainement mieux que ça, hein, mais à la fois, ils ont marqué quand même l'histoire du jazz parce que ça a permis aussi de propager cette musique, de l'étendre, etc., de toucher des publics, etc. Et en même temps, le leader de ce groupe, Nick LaRocca, avait dit publiquement que ce qu'il faisait, c'était une musique blanche. Et se coupait de l'histoire quand même, tu vois, de cette musique.
Ouais, je pense qu'il faut pas être trop manichéen non plus dans cette histoire parce que pour de vrai, c'est pas une musique uniquement noire,
certes.
Le jazz. C'était joué aussi par des blancs. Les musiciens noirs et blancs se connaissaient, se fréquentaient, parfois jouaient ensemble, même s'ils avaient pas. Enfin voilà, ils se connaissaient. Et en fait, ça veut pas dire que la musique du groupe qui a enregistré en 1917 était pas leur musique. En tout cas, pour moi, enfin, c'est pas parce que l'histoire du peuple noir aux États-Unis a marqué cette musique, c'est pas pour ça que les blancs n'ont pas le droit de la jouer, ni le droit de, enfin voilà, pour de vrai, c'était aussi leur musique. Après, ce qui s'est passé, c'est que ils avaient parfois des couvertures médiatiques meilleures et au niveau financier des engagements qui étaient meilleurs, etc. Et donc à ce niveau-là, oui, il y a eu certainement des tensions, mais on peut pas dire que c'est de l'appropriation culturelle en tout cas.
En fait, c'est justement pour ça que c'est la question de l'appropriation culturelle est complexe. C'est-à-dire que c'est jamais dire tu n'as pas le droit de t'intéresser à cet art, de le pratiquer, etc. C'est dans quelle mesure tu le fais. Est-ce que ça invisibilise les autres? Quel discours tu portes? Est-ce que tu fais appel à l'histoire, à ceux qui t'ont inspiré, etc. Est-ce que tu véhicules quand même cette idée justement de partage plutôt que justement uniquement de faire cette musique tienne, quoi, sans être en lien avec aussi une histoire, c'est
mais
ça.
Oui,
mais il faut faire attention à comment on dit les choses, parce que là, ta façon de le présenter, c'est comme si le jazz existait et qu'hop, ils se mettent à le jouer. Mmh. Non, en fait, ils ont participé à la création de cet idiome aussi.
C'était des contemporains.
Voilà, après, c'est ce qu'il faut voir, c'est les implications économiques. Et effectivement le marché en fait de la musique qui est tout un truc qui interfère, mais en fait ils ont participé aussi à l'idiome de cette musique. Il y a plein de musiciens états-uniens blancs qui sont géniaux et qui
Bien
ont
sûr.
Participé enfin voilà donc je suis d'accord avec toi, mais c'est un sujet délicat. En tout cas, il faut prendre Bien le sûr. temps, et dans cette émission c'est génial parce que justement on peut prendre le temps de
En fait,
d'aller au fond des choses.
Ce qui est intéressant, c'est justement comment ça s'inscrit dans un continuum de consommation de l'art. Et c'est la même chose avec Elvis Presley, où en fait, il matine sa musique de blues, et puis d'un seul coup, tout le monde adore, tu vois, alors que le blues était là, et que ça avait peut-être moins de presse, et ça continue encore aujourd'hui.
Et que c'est une femme noire qui a inventé le rock'n'roll.
En plus, tu
et
vois.
Et Sister Rosetta Tharpe.
Donc c'est ça le truc, en fait, c'est que bah, eux, ils le rendent marketable. Quand je dis eux, c'est les gens qui sont en fait avec les puissants.
Parce que c'est structuré.
Donc là, voilà, c'est
l'industrie.
Effectivement, c'est les artistes blancs qui peuvent effectivement avoir un amour authentique et véritable pour la musique en question et la faire vraiment de bon cœur, mais qui sont quand même avantagés par un système qui va, eux, les mettre en avant, quand bien même ils seraient arrivés après d'autres...
Oui, parce que c'est un système capitaliste. Ouais. Et le jazz, c'était quand même la musique pop de l'époque. Donc c'est sûr qu'il y avait tous les gens qui avaient de l'argent et qui finançaient les têtes d'affiche, c'était des blancs. Et je pense par exemple aussi aux émissions de télévision qui étaient très importantes à l'époque, aux émissions de radio d'abord et puis après de télévision. Par exemple Nat King Cole qui était un des premiers noirs américains à avoir son show télévisé en son nom et qui a dû s'arrêter au bout d'un moment parce qu'en fait c'était les sponsors qui faisaient vivre ces émissions de télé. Et apparemment ils essayaient même de changer les éclairages pour essayer de le rendre plus blanc à l'image parce qu'il y avait plus de sponsors qui voulaient financer l'émission et ça s'est arrêté au bout d'un moment et parce qu'en plus il invitait évidemment beaucoup d'artistes noirs américains dans son show et c'était le cas aussi pour plein d'autres musiciens noirs de l'époque. Donc oui, effectivement le problème c'est pas tant de l'appropriation culturelle, c'est évidemment un problème, et il y a aussi cette idée du qui avait l'argent et donc qui finançait quoi. Et c'est vrai que l'invisibilisation elle passe aussi par le manque d'enregistrement. Parce que faire des enregistrements, ça coûtait aussi de l'argent. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait des artistes aussi noirs qui allaient en Europe, en France, en Europe, parce que ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, mais en Europe, on accueillait mieux les personnes noires à cette époque. Mais ça a aussi participé à l'invisibilisation de beaucoup d'artistes, parce que tu avais des artistes qui étaient constamment sur la route, et notamment en Europe, au lieu de se retrouver en session et donc en enregistrement ou alors en résidence dans des grandes salles aux États-Unis, et donc dont on a peu de traces. Je pense à une trompettiste qui s'appelle Valida Snow, par exemple, qui en fait a été très reconnue à l'époque comme une très grande trompettiste, qui a fait beaucoup de tournées, mais notamment en Europe, et qui donc en fait a très peu d'enregistrements. Il y a très peu de traces aujourd'hui de son œuvre.
Ah, ça, c'est intéressant aussi. Comme...
Est-ce qu'il y a des histoires, j'ai envie de dire, qui pour vous résonnent particulièrement, peut-être personnellement, je ne sais pas, d'artistes jazz, pas forcément les plus connus, c'est vraiment quelque chose qui vous touche, vous, qui ont mené à un moment un combat ou ont incarné quelque chose et vous dites, on n'en parle pas assez, peut-être qu'on peut l'évoquer là autour de ce micro, je ne sais pas.
Ouais. Alors moi, ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressée à la figure de Mary Lou Williams, qui est une superbe pianiste de jazz nord-américaine. Elle est née en 1910, donc elle a traversé toute l'histoire du jazz et j'ai découvert son œuvre ces dernières années, que je trouve vraiment monumentale. Elle a commencé à jouer à l'âge de 6 ans. Elle a commencé à gagner sa vie largement à l'âge de 13 ans en faisant des concerts. Oui. Ouais, ouais, ouais. Elle était vraiment prodige, enfin virtuose. Et ce qui est intéressant par rapport à son éducation, c'est que sa mère était pianiste, elle était organiste à l'église. Et en fait, sa mère ne voulait pas qu'elle prenne des cours de piano, des cours de musique, parce qu'elle avait peur que ça inhibe ses dons pour l'improvisation. Donc en fait, elle a dû, Marie Williams donc, faisait tout d'oreille, elle avait l'oreille absolue, elle reproduisait instantanément tout ce qu'elle voulait. Et elle a dû apprendre elle-même le solfège, faire l'effort, etc. pour pouvoir apprendre l'écriture, et transmettre et composer, parce qu'en fait, c'est devenu aussi une très grande compositrice. Et je me suis beaucoup intéressée à son parcours en tant que musicienne, franchement, pas très... Enfin, reconnue vraiment pas à sa juste valeur, et elle a pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir, parce qu'elle était vraiment c'était la marraine par exemple de Bud Powell et Thelonious Monk. En fait, c'était ils allaient tout le temps chez elle à New York après leur soirée au Minton's ou dans les clubs de New York, et en fait elle a vraiment été toujours à la pointe du jazz en fait tout au long de son histoire. Et à un moment donné, elle est venue d'ailleurs en Europe dans les années 50, et elle a été très déçue du peu d'engagement qu'elle a trouvé à Londres et à Paris. Et à ce moment-là, en fait, elle était vraiment découragée par ce manque de visibilité et des problèmes de carrière. Donc elle a décidé d'arrêter la musique, ce qui est quand même assez violent pour quelqu'un comme ça. Et pendant 3 ans, elle n'a pas du tout touché un piano. Et elle s'est convertie au catholicisme. Elle est revenue aux États-Unis, elle s'est convertie au catholicisme, et là elle a commencé à servir, elle a créé d'ailleurs une fondation qui s'appelait Bel Canto pour aider les musiciens de jazz qui avaient des problèmes d'addiction, parce qu'elle en avait, elle avait connu beaucoup ça autour d'elle en fait. Et puis un jour, c'est un prêtre qui lui a dit en fait, c'est vraiment dommage, Marie-Lou, que tu arrêtes la musique et que tu fasses pas de musique, parce que c'est ta meilleure manière de servir Dieu, en fait. C'est ce que tu fais de mieux sur Terre, donc tu devrais vraiment revenir à la musique. Et donc, elle a commencé à composer des messes jazz. Elle a composé notamment une œuvre sublime qui s'appelle Black Christ of the Andes, avec un morceau qui s'appelle Saint Martin Porus, qui est en fait le premier... la première personne qui a été canonisée, qui était noire en fait, et qui venait d'Amérique latine, c'est pour ça que ça s'appelle Black Christ of the Andes. Et cette œuvre là, donc, est une œuvre chorale et vraiment bouleversante. Et puis elle a écrit d'autres œuvres par la suite. Elle est revenue quand même un petit peu au jazz, et finalement elle a tourné un petit peu, mais elle a vraiment vécu les difficultés d'être une femme. On pourra y revenir si vous voulez, j'ai d'autres histoires encore.
Mais ça, c'est intéressant, évidemment, sur la présence des femmes aussi dans cette musique. Est-ce que ça a été un combat pour de nombreuses femmes de s'imposer aussi dans ce milieu, ou est-ce que dès l'origine, c'est un milieu relativement mixte? Comment ça s'est passé dans l'histoire du jazz? Tu connais un peu ça, Flore?
Je pense que c'est un... Je saurais pas vraiment dire si dès le départ c'était mixte, mais j'ai pas l'impression... Je pense qu'il y a eu, dès l'origine, c'était un milieu où il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes, hormis au chant. Et encore, je pense que les femmes, les chanteuses aujourd'hui sont majoritaires dans le jazz, mais
ça a toujours été comme ça.
J'ai pas les chiffres des débuts du jazz là, j'avoue.
Parce qu'il y a la dimension, évidemment, en tant qu'afro-descendant dans cette société raciste, c'est difficile. Mais alors, si on rajoute le fait d'être une femme,
c'est pas facile. Ouais. Ou alors, si vous voulez, je peux revenir à l'histoire de Marie-Lou Williams. Ouais. En fait, elle jouait dans le groupe de Andy Kirk, qui s'appelait 12 Clouds of Joy. Et en fait, il y a un soir où elle remplaçait le pianiste titulaire, parce que parfois le pianiste n'était pas là pour je ne sais pas quelle raison. Et comme elle jouait très très bien, il l'appelait pour remplacer le pianiste. Et un soir, il y a un producteur qui venait de Chicago, qui était là dans la salle, qui a trouvé le groupe vraiment fabuleux, génial. Ok, super, il faut absolument que vous veniez tous... à Chicago pour enregistrer dans mon studio. Et bien évidemment, le groupe donc s'organise et puis ils se disent bah non, on va pas prendre Marilyn Williams, c'est une femme. Ouais. Et puis bon, c'est pas très pratique, on va prendre le pianiste titulaire. Et en fait, ils sont arrivés à Chicago. Et là, le producteur, donc c'était tout un long trajet en train, il venait de Kansas City. Et là, le producteur a dit, bah, non mais il y a un problème là, elle est où la pianiste ? Moi je veux Marilyn Williams.
Elle est trop forte. Ouais.
Donc c'était la panique à bord, ils l'ont appelée en catastrophe, allô Marilyn, il faut absolument que tu nous rejoignes. On était en 1930 à ce moment-là et en fait donc elle a pris le train pour les rejoindre. Elle était contente d'être appelée, mais en même temps voyager toute seule, compliqué.
Ouais.
Et donc elle a pris un train de nuit et ça s'est très mal passé parce qu'elle est tombée sur un contrôleur mal intentionné, criminel, qui l'a violée pendant le trajet en train. Et donc elle est arrivée quand même à Chicago, elle a enregistré avec le groupe, etc. Mais vraiment, elle a payé cher cette histoire. Et en fait, ça ne serait pas arrivé s'ils avaient emmené Marilyn Williams directement dès le départ. Voilà. Et à la suite de ça, elle a composé un morceau qu'elle a enregistré en piano solo pour raconter cette histoire, qui s'appelle Night Life. Et voilà, qu'elle a enregistré en 1930, qui est assez émouvant, surtout quand on connaît les circonstances de composition. Voilà, donc elle a, dès le départ, quand même vécu des situations tragiques. Mais comment dire, elle était quand même hyper respectée. Enfin, je veux dire, en tant que pianiste, tout le monde l'adorait, tout le monde... tous les musiciens l'appréciaient énormément. À chaque fois qu'on réunissait les plus grands pianistes de jazz, elle était là. Et donc, et en fait, ces dernières années, c'est étonnant, mais particulièrement en France, on est en train de réhabiliter Marilyn Williams. Il y a notamment Pierre-Antoine Badarou qui a enregistré deux albums avec son orchestre consacré à la musique de Marilou. Moi aussi, je travaille pas mal sur elle, sur sa musique, et j'ai fait un arrangement de Scorpio, qui est un mouvement de la Zodiac Suite, que j'ai transformé en petit concerto pour saxophone baryton. Voilà, je pense qu'il y a eu un retour en ce moment sur les grandes figures du jazz comme ça, qui sont importantes.
On peut peut-être juste écouter un extrait de Nightlife.
Allez.
Ça peut être pas mal, comme ça on écoute Marilyn Williams. De la présence des femmes dans cette musique. Est-ce que ça a été facile pour toi de conjuguer à la fois tes convictions fortes féministes et cet amour pour cette musique ? T'as réussi comme ça à mêler les deux, à trouver du sens, à mettre en avant cette musique et en même temps tes valeurs féministes ?
Je vois ce que tu veux dire dans le sens où...
C'était une construction, ça a été... Enfin, tu vois...
Parfois, il y a du paradoxe, comme je disais tout à l'heure, où quand j'ai appris que Chet Baker, en fait, n'était pas vraiment un type recommandable... je sais plus quel jazzman disait que le jazz c'était une musique qui enfin c'était comme un mec qu'on présenterait pas à sa fille ou un truc comme ça. Je crois que c'est Dizzy Gillespie qui disait ça.
Okay.
Parce que bon, il y a beaucoup de toxicité aussi dans cette musique. En plus, évidemment, voilà, du racisme, de tout. Il y a beaucoup d'histoires horribles dans le jazz. Mais effectivement, quand on se penche un peu sur la place des femmes dans cette musique, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de voilà des femmes qui ont produit de la musique extraordinaire, des femmes. Encore moins connue même que Marilou Williams, qui heureusement voilà aujourd'hui est un peu redécouverte, revalorisée. Et il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont parfois fait très peu d'enregistrements ou parfois sorti un seul album parce que aussi c'est la réalité d'une époque où économiquement, bah les femmes au bout d'un moment elles avaient des enfants et elles devaient avoir un travail ou enfin en tout cas elles pouvaient pas se consacrer à une carrière de jazz, ce que les hommes étaient un peu plus enfin avait plus de facilité à faire. Je pense à une pianiste que j'adore, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Terry Pollard, qui a eu une carrière assez éclair et qui a produit un seul disque, mais qui est magnifique. Ou une autre pianiste qui s'appelle Jutta Hipp, je ne sais pas si tu connais... Léla, qui est une pianiste allemande, pour le coup, qui est arrivée aux États-Unis après la guerre et qui a eu une carrière, pareil, très courte. Elle a fait un album avec Zoot Sims, notamment, qui est magnifique. Et elle a sorti très peu de musique. Et en fait, après, elle a très vite été mise au placard. Et c'est des années plus tard, quand il y a, je crois que c'est genre 30 ans plus tard, alors qu'elle était assez âgée, il y a... Je sais plus quel label. Bah, je crois que c'est Blue Note parce que c'était une des premières artistes européennes, femmes européennes à être signée chez Blue Note, qui lui ont amené un chèque de je sais pas combien de milliers de dollars avec ses royalties, quoi. Mmh. Et ses voisins, déjà ses voisins ont dit, mais elle est pianiste, la voisine allemande. elle habitait à New York à ce moment-là. Et en fait, voilà, elle est morte complètement oubliée. Sans avoir jamais rien sorti après, elle avait vraiment abandonné le piano, elle en jouait même plus, il n'y avait pas de piano chez elle. Enfin, donc c'est vraiment, ouais, c'est malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ont eu des carrières comme ça très très courtes et donc il faut aller les, voilà, faut aller les chercher, faut aller revaloriser tous ces albums qui en plus sont magnifiques.
Alors c'est pas forcément avec les figures les moins connues, mais par exemple dans ton album I-330, tu mets aussi en avant des compositions de femmes. Je pense à Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Dionne Warwick.
Non, mais c'est pas elles les ont pas composées ces morceaux. C'était des interprètes.
Après, tu l'as découvert à travers interprétation.
C'est leur interprétation, mais ouais. Non, il y a très peu de compositrices dans mon disque et j'en suis pas fière. Il y en a deux. Il y a Barbara évidemment, mais il y a Margot Gurian aussi, qui est une chanteuse, autrice-compositrice qu'on connaît peu dans le jazz aussi. Enfin, déjà qu'on connaît peu dans la pop, parce que c'était un peu une chanteuse culte des années 60, qui a fait un album et qui est tombée dans l'oubli et qui a été un peu redécouverte dans les années 2000 par un label japonais. Mais en fait, c'était aussi une jazzwoman. C'était une très bonne pote de... Enfin, c'était une pote. Elle était à l'école avec Don Cherry, par exemple, et Max Roach était son professeur. Elle a écrit des livrets pour Max Roach et elle a écrit quelques standards. Elle a écrit le standard de... les paroles, pardon, de... mince, c'est quoi ce morceau, déjà? Ça va me revenir. Un morceau d'Ornette Coleman, parce qu'elle était aussi très pote avec Ornette Coleman.
Lonely Woman.
Merci beaucoup. Elle a écrit les paroles de Lonely Woman et d'autres morceaux. Elle a écrit des standards chantés par Nancy Harrow notamment aussi. Personne connaît vraiment son apport pour le jazz. Et elle a écrit ce morceau dans les années 50, très misandre, que j'aime beaucoup, qui s'appelle More Understanding Than a Man, que j'ai voulu mettre dans le disque aussi parce que il est génial. Et on connaît trop peu Margot Gurian. Mais non, j'ai malheureusement pas trouvé. Alors maintenant, depuis, j'en ai trouvé. Mais à l'époque,
pour le prochain album.
Voilà, exactement. À l'époque de ce disque, tous les morceaux que j'avais rassemblés, au bout d'un moment, je me suis dit, mais mince, il y en a quand même pas beaucoup qui ont été composés par des femmes. Donc j'ai essayé d'en mettre déjà deux. Et l'idée, c'est le plus possible que sur mes prochains disques, il y en ait plus. Parce que c'est important.
Par contre, ce que tu fais, c'est que par exemple, parce qu'évidemment, faire un album, on le fait pas tout seul. On a plein d'équipes autour de soi. On a des musiciens, bien entendu, des interprètes, des instrumentistes, etc. Mais aussi des ingénieurs du son, des graphistes, des gens pour les vêtements, ce genre de choses. Là, je sais qu'il y avait une volonté de ta part de t'entourer quand même le plus possible de femmes.
Ouais, bien sûr. Bah, aussi parce que le trio, les trois musiciens avec qui je joue depuis 16 ans, sont trois hommes. Donc, évidemment, l'idée, c'était pas de les virer pour ce projet, parce qu'ils le portent avec moi depuis très longtemps. Mais l'idée, c'était toutes les personnes additionnelles, par contre, que ce soit des femmes. Donc, évidemment, les soufflantes, on a eu quatre instrumentistes extraordinaires sur ce disque que sont, je vais les nommer du coup parce qu'il faut, ouais. Aurélie Troppé à la clarinette, Jeanne Michard au saxophone, Rosanne Bézier qui a fait les arrangements aussi et qui joue du trombone sur le disque, et Julie Varlet à la trompette. Et même au son, c'était important pour moi aussi d'avoir des ingénieurs du son qui soient des femmes à la prise de son, au mixage, au mastering et au mix atmos. Ça, c'était voilà, que des femmes extraordinaires que sont Jennifer Gros, Marie-Pierre Zovnik et Bénédicte Schmitt. Parce que c'est des postes aussi qui sont voilà, traditionnellement occupés par des hommes. Et ça change aussi beaucoup de choses au son, mais aussi à l'enregistrement. Enfin, être dans un studio avec quasiment que des femmes.
C'est une dynamique
différente. En tout cas, une majorité de femmes. Ah, mais je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, Léla, mais ça change tout, vraiment.
Parce que tu te sens plus en confiance, tout simplement, ou qu'est-ce que ça... Ouais, qu'est-ce que ça crée en toi, tu vois, de dire, bah là, je suis qu'avec des femmes.
Bah, c'est, enfin, je sais pas, je sais pas si c'est descriptible, mais le fait d'avoir, tu vois, de pas te faire mansplainer toutes les 5 minutes dans ton casque, et que ce soit une femme qui te parle de technique, que ce soit une femme qui place les micros, qui te dise, ok, on va tester ce micro-là comme ça, ou qui te fasse des retours, une femme qui te fait des retours sur ta prise, ça va être vraiment différent. Et c'est une sensation que je souhaite à plein d'instrumentistes, hommes comme femmes, parce que ça change vraiment beaucoup de choses.
On peut s'écouter peut-être un extrait de ta version de More Understanding Than a Man. Comme ça, on écoute quand même un extrait de l'album, puis après, on parlera aussi du travail de Leïla.
I can sit by the river in the shade of a tree. I can sob when I'm lonely. I can sing when I'm free. And I know that the river wants to listen to me. For she's more understanding than a man. I can come to the river when the twilight is new. I can laugh when I'm happy. I can cry when I'm blue. And I know that the river sees my own point of view. For she's more understanding than a man. They say that love is something that is simply grand. Who needs it when you know he doesn't understand? I can walk by the river in the cool summer breeze. I can dream in silence. I can speak when I please. And I know that the river comprehends what she sees. For she's more understanding than a man.
Donc c'est sur cet album qui vient de sortir, I-330. Toi, Leïla, oui. Et, ton dernier album en date, on est d'accord que c'est African Rhapsody.
Exactement.
Ouais. Ouais. C'est intéressant, parce que c'est un très bon exemple aussi. Oui, on a le petit livret, on a le disque, etc. Super.
Achetez-le.
Oui, absolument. Bah, sur le travail de Leïla. On parlera d'ailleurs d'où on peut retrouver ton travail, parce que c'est intéressant, t'as une démarche étonnante. Mais ce que je voulais dire, c'est que si je dis pas de bêtises, African Rhapsody... né d'un précédent travail, qui est Rhapsody in Black, qui, tu nous diras d'ailleurs d'où ça vient, c'est pas une commande, mais en tout cas, voilà, pour un événement spécifique qui fait notamment référence aux personnes qui ont vécu l'esclavage. Et tu t'es inspiré donc de textes pour ce travail là sur Rhapsody in Black, de grands auteurs, de grands poètes de la négritude, Sangor, Césaire, etc. Ouais. Et t'avais exploré ça, et si je dis pas de bêtises, African Rhapsody découle aussi d'une certaine manière de ce travail.
Totalement. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une commande du Chœur Philharmonique International pour, autour du projet donc, de célébration de la mémoire des personnes mises en esclavage. En fait, ce chœur philharmonique est artiste de l'UNESCO pour la paix. Et en fait, régulièrement, ils ont des thématiques, en fait. Et donc, ils m'ont contacté et ils m'ont proposé de travailler avec eux sur ce projet. Et en fait, c'est vraiment une des rares fois où on m'a appelé, où je me suis dit, je suis vraiment la personne idéale pour ce projet. Et j'ai été complètement investie et transcendée, en fait, par cette commande. Pour moi, c'était un bonheur immense parce que j'adore travailler sur la poésie. Le rapport entre les mots et les sons, pour moi, c'est un bonheur. Je fais ça depuis 2005, donc j'avais déjà quelques expériences au compteur. Et aussi par rapport au sujet, parce que je suis moi-même d'origine africaine, mon père est mauritanien. En fait, j'ai grandi, comme je disais tout à l'heure, dans une espèce d'effervescence culturelle, militante et décolonisatrice, et en fait émancipatrice de façon générale. Donc, en fait, j'étais même partie une fois avec une réalisatrice sur un tournage en hommage à Léon Gontran Damas en Guyane. J'ai grandi en lisant Luc le Lièvre de Léopold Sédar Senghor, qui est un livre qu'il a écrit pour les enfants. Enfin voilà, ça faisait vraiment partie de ma culture familiale. Et donc, conjuguer et la composition à partir de poèmes et la thématique sur la poésie de la négritude, pour moi, c'était un bonheur total. Donc j'ai composé tout ce programme, on a fait la création, on a joué plusieurs fois, d'ailleurs ça a assez bien marché. On va donner un concert ensemble le 28 juin prochain au Festival du Moulin d'Andé qui s'appelle Jazz au Moulin. Donc en fait, c'est un projet qui continue à vivre. Et en fait, il y avait certaines de ces œuvres donc que j'ai composées que j'avais envie de fixer, envie de sublimer à travers un album. Donc j'ai choisi certains des morceaux de la suite Rhapsody in Black, qui figure donc dans ce dernier album qui s'appelle African Rhapsody, dans lequel j'ai aussi ajouté d'autres compositions. En fait, j'ai essayé de composer tout un voyage autour de cette thématique avec mes musiciens, mon octet, puisqu'en fait, pour le projet octet. Rhapsody in Black, il n'y avait pas tout mon groupe, en fait. On était juste quelques-uns. Il y avait violoncelle et saxophone. Soprano et baryton. Et donc, en fait, j'ai réarrangé, repris cette musique pour me l'approprier avec mon groupe. Et c'est le troisième disque, d'ailleurs, qu'on enregistre avec les mêmes musiciens. Donc, on est huit. Il y a trois saxophones, trompette, guitare, moi, piano, contrebasse et batterie.
Puis tu fais appel à des gens pour des voix régulièrement. Et voilà. Camille Berthaud,
et ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai invité Camille Berthaud pour deux titres, et notamment un qui me tient beaucoup à cœur, qui est un poème écrit par ma mère, Jamila Olivesi. Et pour la partie Rhapsody in Black, en fait, on a monté un chœur professionnel qui s'appelle les Poetic Birds autour de Yanis Ben Abdallah, qui est le chef de chœur du Chœur Philharmonique International. Je ne sais pas si vous avez suivi.
À peu près.
À peu près. Donc, en fait, le Chœur Philharmonique International m'a commandé cette œuvre qu'on a créée ensemble, et puis ensuite j'ai collaboré avec le chef de chœur qui est aussi un super ténor qui a une voix magnifique, et en fait je lui ai proposé, enfin c'est lui qui m'a proposé en fait de réunir, de monter un chœur professionnel pour enregistrer certains des morceaux dans le disque. Et donc on était au total 22 artistes au studio, ce qui était quand même une très très grande aventure. Et voilà, c'était un grand bonheur donc de prolonger cette aventure.
Peut-être, tu nous as dit que c'était quel morceau, ça reprenait un poème de ta mère?
Alors ça c'est
peut-être qu'on peut écouter celui-là comme extrait.
Bien sûr.
Ouais, ça te va?
Oui, avec plaisir.
Et ben on fait ça alors, Aurore, Leïla Olivesi.
Songe de la lune.
C'est
bien ça aussi.
Trop bien.
C'est doux.
C'est trop, trop bien.
Ouais, bravo.
Trop beau. Très chouette.
Peut-être qu'on peut justement faire le parallèle entre vos. Entre vos travaux, entre votre œuvre, vos œuvres, pardon, parce que on a vu qu'il y a une dimension historique, politique du jazz. Mais j'imagine qu'encore aujourd'hui, on peut invoquer cette dimension politique du jazz. On l'a compris, toi, avec les auteurs, par exemple, de la négritude, avec les poètes. Toi, Flore, tu me disais, en essayant de mettre le plus en avant possible des compositrices, par exemple. Au-delà des morceaux que vous pouvez composer, etc., des références éventuelles, est-ce que quand on sort un disque aujourd'hui, je sais que Flore, par exemple, t'as déjà dit des choses là-dessus, est-ce qu'il y a une dimension politique de l'acte de sortir un disque, un album, alors comment on s'entoure, évidemment, mais même comment on le construit, par quel canaux on va passer pour le distribuer, avec qui on s'entoure, parce que c'est aussi un acte, ça dit quelque chose de comment on travaille, dans quelle société. Flore, peut-être tu peux nous en parler un peu de ça.
Bah oui, c'est sûr que dans la société capitaliste dans laquelle on vit, et surtout à l'ère des plateformes de streaming où évidemment les gens sont plus habitués à écouter des albums dans leur intégralité, et surtout à ce que ça soit gratuit. Enfin, les gens ont du mal à payer aujourd'hui pour de la musique. Donc sortir un disque, évidemment, c'est déjà, je pense, oui, il y a une forme de politique là-dedans, d'acte de résistance, peut-être, pour vraiment peut-être mettre un peu des gros mots là, sur ça. Mais après, moi, je pense que, enfin, je suis très, comme je viens de la pop. À l'origine aussi, je suis un peu remontée contre les plateformes de streaming, notamment celles qui commencent par Spotify. Mince, je l'ai dit.
T'inquiète pas, on tape dessus de temps en temps. Quoi.
Voilà, je pense que c'est sûr que le jazz, je pense, parce que Spotify, c'est surtout tout ce qui concerne la rémunération des artistes, notamment, mais aussi l'intelligence artificielle,
oui,
qui est vraiment
création.
Quelque chose qui fait quand même vraiment très flipper aujourd'hui. Le jazz, j'ai l'impression... par chance, j'espère, est un peu sauvé de cette histoire de l'intelligence artificielle. Alors, tu vas me dire ce que t'en penses, Leïla, mais parce que le jazz est par essence une musique d'accident et qui se joue de façon collective, d'improvisation. Donc, il y a quand même bon chance à l'intelligence artificielle s'ils veulent la mettre dans le jazz pour remplacer l'improvisation. Après, on l'a vu avec tous les scandales qui sont, enfin, toutes les choses qui sont sorties sur Spotify, on voit que. Il y a beaucoup de musiciens, de jeunes musiciens, notamment aux États-Unis, qui sortent d'écoles de jazz et qui sont payés $50 pour faire une session d'enregistrement de piano jazz lounge toute une journée, qui après donne tous les droits à Spotify. Et Spotify après met ça dans des playlists chill pour travailler, entre guillemets, quoi. Des playlists qui ont des millions d'abonnés, donc qui génèrent beaucoup d'argent et qui génèrent beaucoup d'argent par le stream. Pour Spotify, finalement, parce que Spotify a acheté des improvisations, des choses que des jeunes artistes qui, évidemment, n'ont pas les moyens de refuser ce genre de proposition ont accepté. Donc, le jazz est peut-être un peu préservé pour l'instant, mais je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde en souffrira.
Et toi, à ton échelle, par exemple, lorsque tu sors un album, comment tu arrives à tenir aussi ce discours critique vis-à-vis des plateformes de streaming, par exemple? Tu mets quand même, j'imagine, je le sais d'ailleurs, que l'album est disponible sur Spotify, par exemple. Est-ce que c'est quoi? C'est faire de la pédagogie autour de ça? C'est rappeler ce sujet? C'est aussi peut-être créer d'autres formes de vie de cette œuvre, justement, en parallèle des plateformes de streaming? Je sais pas.
Oui, bah, disons que pour être complètement transparent, mon album est sur Spotify parce que je suis signée chez Decca Records et que, j'étais pas vraiment en position de dire non.
T'aurais souhaité ne pas être présente sur cette plateforme?
J'aurais préféré, oui. Moi, je pense que personnellement, je préférerais ne pas y être parce qu'en plus, je suis suffisamment vocale là-dessus, sur le problème des plateformes de streaming pour être cohérente là-dessus et oui, ne pas souhaiter y être. Bon, il y a des obligations parfois. J'admire beaucoup les artistes comme Leïla ou comme China Moses aussi, qui a sorti son album récemment et qui a volontairement voulu ne pas le mettre sur les plateformes. Je trouve que c'est une façon... je pense, de sortir de la musique qui nous sauvera, qui sauvera peut-être la musique à un moment. Je trouve qu'il y a une artiste américaine qui s'appelle Kaja Bonnet aussi, qui est très engagée sur ces questions en ce moment. Non, je pense que moi, j'essaye d'en parler le plus possible. C'est ma façon à moi de lutter contre ça. Et évidemment, j'ai quitté et j'ai encouragé beaucoup les gens qui me suivent sur les réseaux à quitter ces plateformes de streaming et à se tourner vers des façons de d'écouter de la musique plus vertueuse, notamment la plateforme Qobuz, mais aussi évidemment acheter des disques et aller voir des concerts, parce que c'est aussi une façon de faire vivre les artistes, parce que vivre de sa musique aujourd'hui c'est pas facile, et par le streaming c'est de pire en pire. Donc
Il y a un autre exemple, après Leïla tu nous parleras de ton modèle qui est très intéressant. Il y a un autre exemple, Flore, d'un acte autour de l'album qui est quand même symbolique, qui veut dire quelque chose, qui est d'une certaine manière politique. C'est le fait que sur la pochette, par exemple, toutes les personnes qui ont contribué à ce disque sont représentées. Il y a une photo avec tout le monde, quasiment une vingtaine de personnes.
Ouais, je crois qu'il y a 25 personnes. Mais l'idée, c'était qu'il n'y ait pas que les musiciens et moi. C'était qu'il y ait vraiment... Il y a toutes les ingénieurs du son, évidemment, qui sont dessus. Il y a la styliste, il y a les musiciennes, évidemment, les soufflantes du disque. Il y a ma manageuse, il y a la graphiste. Il y a mes sœurs qui ont créé la machine... que je joue sur le disque. L'idée c'était de montrer que vraiment un album c'est pas une aventure solitaire, et c'est pas parce que c'est moi qui chante et qui choisis les morceaux par exemple que devrait y avoir juste ma tête en gros comme ça.
Ça tu vois, par exemple, je trouve que ça a vraiment du sens, parce que c'est justement rappeler l'aventure collective qu'est un album, là où quand on travaille dans la musique on le sait en général, mais c'est vrai que pour le grand public parfois c'est tellement incarné par l'artiste, l'interprète, etc., qu'on oublie toutes ces petites mains, etc., et les valoriser, mine de rien, ça participe à une vision aussi de ce travail, de ces métiers, de l'industrie, quoi.
Ouais, c'est chouette. Ouais. Super.
Léguila, toi, t'es disponible, par exemple, sur les plateformes de streaming ?
Alors, moi, j'ai accepté d'être présente sur les plateformes, mais pas à 100%, parce que j'avais pas envie de tout donner. En fait, la première fois que j'ai vu mon relevé de royalties des plateformes de streaming, je me suis dit, il y a un problème, en fait. On peut pas continuer comme ça. Donc, j'ai la chance d'avoir monté mon propre label, Attention Fragile. Et j'ai aussi la chance de travailler avec un super distributeur qui s'appelle L'Autre Distribution, avec qui le dialogue est possible. Et donc, en fait, on en a discuté. Et je leur ai dit que oui, effectivement, j'ai envie d'être présente à petite dose pour pouvoir être découverte, que les gens puissent partager entre eux, voilà, faire découvrir cette musique. Et en même temps, je préfère inciter les personnes qui aiment à aller plus loin en achetant la musique soit sur mon site ou alors à travers un livret numérique que j'ai instauré où en fait on perd pas toute l'identité de l'album, parce qu'il y a tout, il y a les notes de pochette, il y a des photos avec notamment l'ingénieur du son, les illustrations, il y a les poèmes qui sont mis en musique. Et en fait, tout cet album, ça, c'est quelque chose qu'on perd souvent sur les plateformes. Ce petit objet, donc.
Faut pas que je montre le QR code.
Ouais. Ce petit objet sert, par exemple, pour les personnes qui n'ont plus de lecteur CD. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'album précédent, Astral, je pensais que ça n'allait pas marcher en version Digipack. Et donc, je me suis dit, je vais en fabriquer un petit peu moins que d'habitude. Et puis finalement, pas du tout. Parce qu'en fait, les fans de jazz, les audiophiles, etc., ont encore des lecteurs CD, ils achètent encore des disques. Et donc, en fait, j'ai dû represser deux fois cet album. Wow. Et je me suis dit, bon, en fait, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème dans le sens où on peut quand même continuer à faire des disques, penser à un objet comme ça, global, raconter une histoire avec toute une identité et un propos. Et en même temps, inventer donc ce livret numérique que je conseille à tout le monde. Alors, vous pouvez aller sur le site leilaolivesi.com, par exemple, pour l'acheter par correspondance. On peut le dédicacer au concert. En fait, c'est un objet sympa.
En fait, le principe, hein, c'est que donc on achète un objet physique, mais qui donne accès à la musique directement sur ton site. Donc, on passe en dehors. Parce que souvent, quand on parle des gens qui essayent d'éviter les plateformes de streaming, c'est comme si elles évitaient la numérisation de leur musique et qu'elles la distribuaient plus du tout. Alors qu'en fait, là, le truc que je trouve intéressant, c'est que en fait, t'achètes ça, t'as quand même accès à l'album, soit en MP3, soit en FLAC.
Exactement.
Donc en plus, on peut choisir pour les vrais, avec du matos de
Vilasless.
Voilà. Mais t'as quand même accès à un album que tu peux mettre dans ton lecteur et emporter avec toi, quoi. T'es pas bloqué avec ta platine à la maison, quoi. Et je trouve ça super intéressant comme approche, en fait.
Et en plus, avec cette approche hybride où t'es pas complètement sur les plateformes, mais un peu quand même. C'est-à-dire vraiment, c'est littéralement sur le dernier album African Rhapsody, tu dois avoir 4-5 morceaux, c'est ça,
je crois.
Sur les 11 de l'album.
Sur les 11.
C'est étonnant. Et tu arrives à créer une économie autour de tout ça, c'est-à-dire que en mélangeant peut-être, je sais pas, le live, les disques, bon, les plateformes de streaming, tu as dit, ça ramène pas grand-chose, mais tu arrives à trouver ton équilibre comme ça.
Ah oui, ça se passe bien, c'est super.
C'est aussi, tu penses que, parce que tu as parlé d'une spécificité du public quand même jazz, peut-être un peu plus audiophile, un peu plus attaché à l'objet physique.
Oui, je pense aussi.
Ça joue quand même, ouais.
D'ailleurs,
je suis en train de réfléchir.
Ah ouais.
J'en suis le premier exemple, vraiment.
Tu veux dire quoi? Que les gens du jazz...
Non, que les gens, en fait... on est en train de le réaliser. Alors moi, il a fallu un double salut nazi et des propos complètement délirants de Daniel Elk, le boss de chez Spotify, pour me rendre compte d'à quel point on partait dans le mur. Tu vois, on avait déjà parlé des artistes, des groupes fantômes justement qui ne profitent qu'à la plateforme. Après, il y a carrément le mec qui dit ouais, si demain je te change ton morceau des Beatles par un truc fait par IA, tu t'en rendras même pas compte. Moi, pour moi, ça c'était horrible. Et donc, on arrive à une prise de conscience que on est vraiment nous tous là collectivement depuis 15-20 ans dans une économie de l'accès. Et moi, je me faisais la réflexion parce que ma fille a 14 ans, elle a eu 14 ans la semaine dernière, et je me disais, c'est marrant, mais si demain elle me dit, papa, qu'est-ce que t'écoutais? J'ai rien. Parce que j'avais tout sur des disques durs ou en ligne. C'est-à-dire que tu fais des playlists de 800 morceaux, demain la plateforme elle ferme, ta playlist elle disparaît en fait. Et le fait de pas avoir d'objet vers lequel te tourner, de support, en fait, moi ça m'a vraiment, j'ai réalisé ça, et donc il y a quelques mois déjà. Et moi, à titre personnel, qui pourtant est sauté à pieds joints dans le numérique depuis le départ, moi, je suis en train de me reconstruire en fait en achetant des vinyles.
Donc, ce que tu voulais dire, c'est que ce qu'elle observait dans le milieu du jazz, ça, tu dis, partout, ça peut même dans d'autres, dans d'autres esthétiques.
Moi, j'en parle autour de moi, et je sais que c'est les gens maintenant sont sensibles à ça, à savoir que tu vois, moi, quand je retrouve des vinyles chez mes parents et que je les ramène chez moi et que je digue tout ce que j'ai récupéré, je me dis, j'aimerais bien que ma fille puisse faire pareil avec ma musique à moi, les trucs avec lesquels moi j'ai grandi. Et en fait, ça. Tu te tournes en fait vers le fait de dire je garde un accès sur les plateformes de streaming pour la découverte. En revanche, à partir du moment où il y a un artiste ou une artiste que t'apprécies, t'achètes l'album. Moi, je l'ai fait en vinyle parce que j'aime bien aussi me focus quand j'écoute de la musique et pas avoir juste un truc, un bruit de fond. Mais t'achètes le CD, tu vas au concert, t'achètes du merch, voilà.
C'est peut-être qu'il faut mettre en avant des pratiques hybrides, parce que pour me faire l'avocat du diable...
Vas-y.
Non, mais moi, par exemple, dans ma construction musicale et dans le fait que je pense être quelqu'un assez curieux musicalement, m'a intéressé à plein d'esthétiques, etc., franchement, le numérique a participé énormément. Parce que j'avais un accès tellement facilité à beaucoup de musiques très différentes que ça m'a construit... Je crois que c'est une vraie richesse culturelle.
Non, mais c'est en fait...
Donc c'est hyper difficile de trouver, tu vois, le juste milieu. Bien sûr que la question de comment on paye les gens, des valeurs portées par des acteurs du numérique, etc., c'est important. Et en même temps, cet accès...
Oui, alors, à mon époque, il y avait la médiathèque musicale qui existe toujours.
Il faut se déplacer.
Et voilà, et qui permet de découvrir quand même plein de musique aussi, avec le support CD, sans forcément acheter au départ. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait ma culture. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas
tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et tu as même, j'irais jusqu'à dire que dans beaucoup de villes un peu numérisées quand même, la médiathèque est accessible en ligne. Donc tu te connectes sur le site, moi je sais qu'à Maison Alfort c'est le cas, tu as une médiathèque disponible, comme si tu étais sur Spotify, sauf que c'est un truc où tous les enregistrements sont disponibles physiquement quelque part. Tu peux quand même les écouter de chez toi.
Ça pose presque la question d'une forme de service public d'accès effectivement à la culture, etc. Alors qu'est-ce que ça t'évoque toi tout ça?
Surtout qu'en plus, en termes de découverte, tu vois, sur des applis comme Spotify, c'est quand même... C'est aussi assez limité. Déjà, il y a quand même un algorithme qui... Non, mais tu vois, c'est pas
qui
des
t'oriente,
sélections.
Mais qui te permet aussi, mine de rien. Enfin, moi, je découvre des artistes aussi comme
ça. Oui, non, bien sûr. Mais moi, je trouve qu'au bout d'un moment, on tourne quand même pas mal en rond là-dedans, parce que c'est des algorithmes, c'est pas des sélections qui sont faites par des vrais humains. Ouais. La qualité, elle est pas vraiment au rendez-vous, alors que, encore une fois.
Il y a quelques playlists éditoriales aussi sélectionnées par des humains en fonction des plateformes, etc.
Okay, toi, t'es l'avocat de la plateforme aujourd'hui.
Non, c'est pour le besoin du débat aussi, tu vois.
Oui, c'est le contradictoire. C'est le contradictoire.
Bah, c'est bien.
Non, mais je pense que c'est, et surtout, en fait, ça t'enferme un peu dans une chambre d'écho, dans le sens où moi, sur Spotify, j'allais avoir des recommandations de choses qui correspondaient, comme c'est un algorithme, la plupart du temps, qui correspondait à ce que j'écoutais. Donc tu restes souvent quand même un petit peu dans le même dans la même
dans
boucle,
même
tu vois, dans le même style. Et encore une fois, alors j'ai pas du tout été payée par Qobuz pour raconter tout ça, hein, mais en fait Qobuz, comme c'est une petite plateforme française et que la sélection est faite par des
êtres humains.
Voilà, des êtres humains et en plus des bons nerds.
Il y a un vrai travail éditorial journalistique. Notre ami Brice Miclet, par exemple, bosse régulièrement pour Qobuz, etc.
Ouais. Non, c'est super Qobuz.
Et Qobuz, c'est une qui rémunère le mieux.
Ah oui, c'est ahurissant la différence.
Ouais, les artistes. Ouais. Par contre, le problème, c'est la profondeur du catalogue où ils sont quand même un petit peu derrière.
Ils sont, je pense qu'ils sont derrière, mais que ça va pas durer parce qu'à mon avis, enfin, j'espère, si tout le monde va sur Cobuz, et ben, au bout d'un moment, ils seront plus. Parce que c'est, je crois que c'est vraiment une petite entreprise. Je crois qu'ils sont une soixantaine.
Ouais, c'est tout petit. Ouais.
Donc, il faut justement encourager ce genre d'initiative pour que justement le catalogue soit à la même hauteur que Spotify et Deezer. Et en même temps, quand on voit la proportion de musique générée par intelligence artificielle sur Spotify, bah du coup, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un catalogue aussi immense si de toute façon...
Disait que sur Deezer, il prenait, je crois, 1200 titres intégralement générés par IA par jour.
Ah ouais.
Ouais, c'est ça.
C'est colossal, en fait.
Il y a un pourcentage total, effectivement. Ouais. Et oui,
en fait, le souci qu'on a aussi avec ces plateformes, donc économie de l'accès, etc., bon, voilà. Après, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que... Bah, comme la notion de droit et d'accès au catalogue court sur des périodes de temps, des fois, en fait, t'arrives à expiration du droit d'utiliser la musique et l'album disparaît, tu vois, de la plateforme. Et en fait, le problème, c'est que comme on n'a pas chez nous une bibliothèque qui te remet tous les morceaux que t'aurais sur Spotify ou Deezer ou n'importe quoi, eh ben, quand l'album disparaît, tu oublies son existence. Mmh. Et des fois, tu vas y penser... par un truc qui se passe dans ta vie où tu dis « Ah, ça me fait penser à ça. Ah ben oui, ben, j'ai l'album sur Deezer, par exemple. Ah ben non, je l'ai plus. » Et moi, ça a été aussi un des trucs qui fait que je me suis remis en fait à récupérer les morceaux et à les stocker. Alors aussi bien en physique qu'en numérique sur mes disques durs à moi, mais il y a des trucs...
Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une part de tout ça qui est évidemment imputable aux plateformes, mais aussi aux deals qu'ils font avec les maisons de disques, et les maisons de disques qui parfois aussi vont pas toujours dans le sens pareil de l'accessibilité et du public.
Bien sûr, bon. Bien sûr.
Et nous, en tant qu'utilisateurs, on a aussi un rôle à jouer là-dedans.
Moi, je n'y suis pas.
Sur, bah, t'es pas sur.
J'utilise pas
sur les plateformes.
Ah oui, en tant que auditrice, tu veux dire, ok. Ouais.
T'as même pas vérifié si l'enregistrement passait bien sur quelques morceaux que t'as mis
t'as fait checker ton master.
En version free, elle a regardé quand même.
Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, mais ton disque, j'ai cherché sur Cobuz et je ne l'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, ah, catastrophe. Donc j'ai regardé, effectivement, il n'y était pas. Et en fait, c'était un oubli. Et maintenant, c'est réparé. Donc vous pouvez découvrir African Rhapsody sur Cobuz.
Et alors, on parle d'économie aussi, de la musique, etc. Il y a un autre point intéressant, toi, dans ton travail, Leïla. Si je ne sais pas si tu le fais à chaque fois, mais parfois, tu fais appel au participatif pour avoir le budget autour d'un album.
Crowdfunding.
Oui, oui. Ouais, du crowdfunding.
Oui, exactement.
Du financement participatif.
Oui, oui. En fait, c'est vrai que ça fait pas mal d'albums qu'on fonctionne comme ça, c'est vraiment précieux parce qu'en fait, l'économie d'un disque ne pourrait pas exister sans ce type de soutien. Alors, il y a évidemment le soutien de l'ADAMI, du CNM, le Centre National de la Musique, l'Aspect d'IDAM aussi, qui nous aide, la SACEM. Mais en fait, ce qui est génial avec le principe du financement participatif, c'est que tout un tas de gens d'amis, de gens du public qui sont plus ou moins fidèles, qui reçoivent des newsletters, par exemple, peuvent être intéressés par le prochain album. Et donc, en fait, c'est comme s'ils achetaient en avance un disque, ce qui nous permet à nous d'avoir une avance de trésorerie pour pouvoir financer, parce que ça coûte très très cher quand même un album, les séances de studio, toute la partie.
Surtout en octet, j'imagine.
Oui, c'est ça, l'octet, plus le chœur de 12 Poetic Birds, plus Camille Berthaud, Olga Melchenko aussi qui a participé. C'est vrai que quand on veut faire les choses bien, dans des bonnes conditions professionnellement, voilà, il y a un budget quand même très conséquent. Et le crowdfunding nous aide beaucoup. Ouais. Je pense que on est très nombreux à le faire et même certains labels l'ont fait de façon relativement systématique, comme le label Jazz and People par exemple, chez qui j'ai sorti un album qui s'appelle Utopia. Je sais qu'ils le font régulièrement. En tout cas, dans la musique de jazz, ça se fait régulièrement.
C'est marrant parce que toi, Flore, tu connais si bien l'univers de la pop. Ça existe évidemment, mais j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement développé encore les financements participatifs autour d'un album.
Non, dans la pop, ça n'existe pas trop. Bah, c'est aussi parce
c'était
que c'est...
C'était Major Company qui disait ça, non?
Ouais, c'est vrai qu'il y avait un peu ce truc comme ça. Ouais.
C'est peut-être parce que c'est aussi une autre économie, dans le sens où dans le jazz, comme tu... Dans la pop, par exemple, c'est, entre guillemets, plus facile de faire un album tout seul, avec un ordi, un micro, un synthé. je dis pas que c'est simple et je dis pas que c'est la chose à faire, mais en tout cas c'est possible. En jazz, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus une musique qui se joue à plusieurs. C'est une musique où il faut être dans un espace où il y a suffisamment de place, où il y a des micros pour enregistrer chaque instrument, et puis il faut payer les musiciens musiciennes. Donc tout de suite, c'est quand même, je pense que ça a un coût plus conséquent. Et peut-être aussi parce que effectivement l'engagement du public est différent. Je pense que dans la pop, les gens sont beaucoup plus habitués à ne pas payer, avoir accès aux produits entre guillemets vraiment gratuitement et facilement, et donc je pense que c'est plus difficile de demander un engagement financier de la part
pourtant
des publics.
On voit certains, alors c'est des méga méga stars, mais tu vois une artiste comme Taylor Swift, elle a une horde de fans et très qui achète ouais. qui achète vraiment plusieurs fois l'album pour être sûr d'avoir toutes les versions, toutes les déclis et tout. Donc tu te dis peut-être que ça aussi c'est en train de changer même auprès du public un peu plus mainstream. Parce que oui, les musiques de niche font que forcément les gens sont plus investis et mettent de leur personne pour soutenir un peu leurs artistes, etc. Mais je me dis, en fait, on est pour moi à un point d'inflexion là où globalement, j'ai l'impression quand même que les gens vont revenir un petit peu. Peut-être, je dis pas effacer complètement les plateformes, mais en tout cas, repositionner leur rapport à la musique... en faisant les deux, je pense vraiment.
Je crois vraiment, en faisant les deux, c'est ça. C'est, je crois vraiment au modèle hybride, voilà, en fonction des niches, en fonction des scènes. Effectivement, des artistes plus underground et parce qu'ils ont envie de garder une forme de radicalité dans leurs propos, s'appuient sur leur communauté et justement à qui parle cette radicalité. Enfin, tu vois, ça crée un truc, une espèce de cercle vertueux comme ça où on arrive à créer une économie où on est peu en fait au final. Puis à l'inverse, je pense que c'est pas adapté pour plein d'autres artistes. Je pense que si, il y a des artistes qui ont peut-être c'est un droit après tout de rêver, tu sais, de toucher absolument tout le monde, d'être une espèce de figure enfin, fédératrice en fait, comme ça et d'être absolument partout, pourquoi pas.
En fait, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant où on a c'était un point de bascule où on a vendu plus de vinyles
que de
CD quoi. Et donc en fait ça veut bien dire quelque chose parce que le vinyle en tant que support pour fixer la musique c'est littéralement le pire en termes d'encombrement, le fait que ça se dégrade à chaque lecture, c'est fragile, c'est voilà.
C'est un grain, mais c'est
ça
quand
coûte
même
cher, ça coûte cher, etc.
Mais
et
il y a des belles pochettes.
C'est vrai. Mais ouais. Et en fait, les gens, moi, je connais beaucoup de plus en plus de gens qui parfois achètent des vinyles alors qu'ils ont même pas de platine. Parce que l'objet, en fait, t'as une belle photo.
Après, ne pas sous-estimer le CD. Je connais beaucoup de gens, justement, qui aiment beaucoup la musique et qui disent « Attendez, vous allez voir, ça va revenir », parce que ça reste quand même un format...
CD, c'était le format parfait.
Mais oui, il est absolument génial en tant que tel, ce format, d'un point de vue notamment technique, en fait.
Ouais, sur les harmoniques et tout, la dynamique, la plage dynamique est gigantesque.
Et face à la folie financière autour du vinyle, les prix complètement délirants parfois, etc., certains disent « Hey, les gars, sous-estimez pas le CD ».
Ouais, non, mais le CD revient. Le truc, c'est que je connais des gens qui collectionnent les CD, alors déjà on les regarde gentiment, ils ont... quelle folie, mais eux aussi me disent ce CD de la Trisix Mafia, il m'a coûté 350 balles, et je dis ah bah ouais super. Donc en fait il y a la collectionnite avec les revendeurs complètement perchés qui te vendent des trucs à des prix délirants. Vous inquiétez pas, quand le CD reviendra ça sera pareil, ça j'ai aucun doute là-dessus, mais le format CD est compact, mais du coup tu perds, enfin il y a moins d'attrait. Tu vois, avoir un vinyle, c'est beau, quoi. En fait, quand tu écoutes le truc, tu poses la pochette, c'est joli, enfin, c'est un objet décoratif. Et je me dis, le fait qu'on ait vendu plus de vinyle, qui s'en est vendu à l'époque où le vinyle était le moyen le média disponible, donc dans les années 70-80, ça dit quelque chose de l'époque quand même. Et c'est pour ça que je me dis, je comprends les amateurs de musique un petit peu spécifiques, etc., qui s'investissent, mais je sens qu'il se passe quelque chose auprès du grand public.
Peut-être qu'il faudrait faire des CD mais avec des pochettes vinyle, toi. Genre très grand, et puis t'as le tout petit CD au milieu. Il y a peut-être un truc hybride encore.
Le modèle hybride parfait, c'est un vinyle dans lequel dedans t'as une puce NFC, RFID, que tu peux. Tu poses ton téléphone dessus et ça te lance l'écoute de l'album sur la plateforme de ton choix. Mm-hmm. Et ça, il y a des gens qui commencent à le faire.
Et puis, il y a aussi une autre solution, c'est le live.
Évidemment.
Bien sûr.
Donc venez au concert, les amis.
Mais ça, en l'occurrence, c'est un truc... Alors, il y a évidemment des artistes aujourd'hui qui sont un peu plus réticents à faire du live, mais dans le monde de la musique, notamment pour des raisons économiques, le live a quand même encore aujourd'hui beaucoup sa place. Beaucoup d'artistes se reposent sur live pour justement avoir une économie. Et globalement, c'est une expérience qui est encore valorisée, j'ai l'impression, et qui n'est pas prête de disparaître. En tout cas, c'est certainement le salut de la musique. Pour le moment, en tout cas, en attendant un grand bouleversement autour de la diffusion, des plateformes de streaming, etc., là où on est vertueux, c'est en allant voir les gens, effectivement, en live, ça c'est
clair.
Et
il se passe quelque chose, il y a une aventure incroyable, surtout la musique jazz, c'est sur scène, c'est...
Incroyable. Même si, Eda, tu sais quoi, vous êtes incroyable, parce que ça sera certainement un des sujets du prochain épisode du podcast, puisqu'on va parler avec des tourneurs, notamment. Et comment ça se passe justement, et je parle d'une approche vertueuse. Après, on peut parler aussi de boîtes comme Live Nation, etc., où c'est parfois aussi plus compliqué avec des gros mastodontes.
Et on parlait avec les mecs de Terre Noire qui t'expliquaient que le live c'est bien, mais que si pour faire du live il y a des gens qui doivent se taper 300 bandes de bagnoles, c'est pas cool.
Absolument.
Donc...
Bon, mais c'est un autre sujet que j'ai envie de dire. Peut-être pour conclure, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans nos dernières discussions, plus aussi sur l'économie d'aujourd'hui, etc., en fait, on était dans la lignée de l'idée aussi que la musique, le jazz peut porter aussi des idées, des combats, d'une certaine manière. En fait, on parlait de combats modernes aussi. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que cette dimension politique émancipatrice du jazz est amenée à perdurer? Est-ce qu'elle peut même porter d'autres combats futurs, parce que ça naît d'un contexte précis, pour des communautés aussi précises, c'est-à-dire que c'est avant tout une représentation afro-américaine dans un premier temps, mm-hmm. mais qui ensuite touche plein d'autres gens, qui ont des combats différents, mais ça fait quand même sens tout ça. Est-ce que le jazz peut garder cette dimension pour des combats futurs et varier fondamentalement?
Alors, moi, ce que je pense, c'est que le jazz est une musique où la personnalité de l'artiste s'exprime de façon... très très forte et artistiquement vraiment. En fait, le jazz, c'est un statement à chaque fois. C'est-à-dire que comme il y a une grande dimension d'improvisation, il y a effectivement des thèmes, des choses qui sont écrites, mais en fait, c'est une fois que la musique se vit sur scène et se partage, en fait, c'est l'interplay et l'interplay, c'est le mot qu'on utilise pour parler de l'interaction qu'il y a entre les musiciens qui sont en train de jouer ensemble. Même s'il y en a un, par exemple, qui fait un solo à un moment donné, qui improvise, en fait, les autres sont en interaction permanente avec eux et il y a un dialogue qui se crée. Et en fait, ça, c'est un engagement, en fait, personnel qui est très, très fort de la part des artistes. Donc je pense que ça de façon structurelle, ça rend cette musique en fait particulièrement politique. Si le politique, parce que politique ça veut dire le vivre ensemble, et donc c'est la façon d'être ensemble, et en fait il y a cet engagement dans cette musique qui rend les choses naturelles, qui peut porter effectivement différents combats, mais je pense qu'on peut pas faire du jazz en passant un petit peu de façon légère, il y a forcément un engagement fort.
Moi, je suis d'accord, et je pense que justement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'IA et l'uniformisation de la musique et de la culture. Je pense que le jazz sera à jamais une musique qui va lutter contre ça, parce que, comme tu dis, c'est le fait de jouer ensemble, d'être en interaction, d'être humain, en fait. Donc oui, je pense que le jazz sauvera le monde.
Quelle magnifique conclusion.
C'est beau.
Flore, Benguigui, Leïla Olivizi, merci beaucoup. C'était hyper
merci
cool.
Merci.
Vous savez, chouette. On a une tradition à conclure réellement cette émission à chaque fois, c'est des recommandations musicales. Mm-hmm. Donc on s'écoute un petit extrait, chacun va le faire, Daz, moi, vous aussi.
De ce que vous voulez.
Ce que vous voulez. Un truc, soit un de vos classiques, soit un truc que vous avez découvert récemment, jazz ou pas. Même idéalement, si c'est autre chose que du jazz, c'est cool, parce qu'on a un peu parlé de jazz déjà pendant quasiment deux heures. À voir, je sais pas, si vous avez déjà des idées, est-ce que vous voulez un peu de réflexion Alors, tu vois, elles vont pas faire. Attends, je regarde sur mon Spotify, ce qui arrive régulièrement avec nos invités.
Comment tu fais? Alors, ça tombe bien, j'avais une idée.
Est-ce que vous voulez qu'on commence pour vous laisser un petit temps de réflexion, ou vous avez déjà
allez-y,
une idée?
Allez-y.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Daz, t'as une idée?
Yes!
Vas-y.
Un groupe que j'adore.
Ouais.
Love Unlimited.
Oui.
Produit par Barry White, évidemment. Oui. L'album s'appelle From a Girl Point of View. Tous les morceaux sont écrits par Barry White. Bref. Pas de commentaires là-dessus, mais il y a un morceau que je trouve incroyable dessus, enfin deux morceaux en fait, trois, quatre, tout l'album. le morceau s'appelle I Can't Let Him Down, Let Him Down, et je l'ai acheté 3,90€ sur Discogs. Et Moi, je veux vivre dans cette musique, en fait.
Eh ben, on commence par l'écouter.
Allez.
On voit si on s'installe après, si vraiment on
veut. Tu vas voir, c'est riche. Moi, je suis pas fan de Barry White, le chanteur pimp originel. Là, ça me casse un peu les couilles, je dois dire. En revanche, en conduite d'orchestre et arrangement et composition, le mec est...
Mais c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, Barry White, c'est mieux quand il chante pas.
Bah oui, bah oui, moi, j'ai jamais compris. J'ai d'autres vinyles que j'ai récupérés chez mes parents. Il y en a un, c'est une photo de lui en gros plan. Tu vois son visage tout dégoulinant de sueur. Et je suis en train de me dire, mais comment comment ce mec-là, ouais, comment tu dis très belle photo, je pense qu'on va la mettre. Voilà, donc moi, franchement, je trouve que c'est un artiste majeur qui est super important pour tout ce qu'il a créé. Mais effectivement, moi, quand j'entends ses compos, je fonds, en fait, vraiment plus que quand je l'entends chanter.
Est-ce que Leïla, Flore, vous avez... ouais, c'était bien. Hein. Est-ce que vous avez une petite idée maintenant ou on vous laisse encore un peu de temps ou...
Tu veux y aller ?
Allez, j'y vais. Donc moi, j'ai envie de vous faire écouter une œuvre de Take Six, groupe vocal que j'adore. Et leur premier album qui s'appelle Take Six. Et bon, alors tout l'album est génial. Mais donc j'ai du mal à choisir un titre. Mais on pourrait par exemple écouter A Quiet Place.
Allez.
Qui est très beau et qui est aussi un... qui porte pas mal un désir de paix.
Parfait. A Quiet Place, alors, de Take Six.
Weather a garden's more.
Mais il a été tellement investi pendant qu'on écoute le morceau. À quand ton groupe vocal comme ça,
ça date
moi,
de quelle
mon rêve, ça serait de me réincarner en un membre de Take-Six.
C'est vrai.
Ouais.
C'est 88.
88, ouais, ouais. Parce que ça se fait plus trop, les trucs. Parce que ça...
C'est vrai. Enfin, je connais mal après.
Que sont devenus les Pow-Wow, par exemple.
C'est vrai. Ah, ils sont plus très actifs. Ouais.
Mais ils existent, hein, Take-Six. Ils tournent, je les ai vus il n'y a pas très longtemps à la scène musicale. Ils continuent. Ils sont toujours au top.
Ouais, chouette, c'est trop beau. Au conservatoire, j'avais essayé on avait essayé, j'avais un groupe vocal au conservatoire, on avait essayé de chanter un Getaway Jordan de Take Six.
Ah, j'adore ce
impossible.
Morceau.
On avait passé des mois dessus, je me rappelle, c'était un peu une cata. C'est dur, c'est très dur.
C'est très très fort. Hein. Ouais, ils techniquement, sont incroyables. A cappella.
Ouais.
Avec un ingé son qui laisse pas trop de respiration après les phrases. Hein.
Ah,
pour moi, à chaque fois, t'as l'impression le mec il coupe tout. Dès qu'il finissait une phrase, tac, il n'y a plus de. Il n'y a pas la respiration. Le gate est infranchissable.
Flore, est-ce que t'as une idée de ton morceau?
Oui, je pense qu'on va rester sur cette idée de musique qui apporte la paix. C'est le dernier album qui m'a mis un peu une claque. C'est l'album de Momoko Gil. Gil. Et c'est. L'album s'appelle Momoko. Et c'est vraiment très très beau. Et il y a un morceau qui s'appelle When Palestine is Free. Et je pense que c'est un message qu'on a besoin d'entendre en ce moment.
J'ai la ref. Merci. J'ai la ref.
Et ben allons-y. Have we come to see? We're only free when Palestine is free. Every light we grieve. Returns to heal the river to the sea. Have we come to see? We're only free when Palestine is free. Long as we may breathe, return to heal the river. No more rest in
hyper beau,
trop
ça aussi.
Bien, ça. Ouais.
Et tout l'album est vraiment sublime. Je vous invite à l'écouter.
Momoko Gil, je connaissais pas, j'avoue.
Alors, Salman.
Oui.
Toi.
Écoute, ça va être un autre délire.
Ouais.
Non, en mode musique électronique, j'ai découvert récemment, sous les conseils d'ailleurs notre collègue Renoiser, parce que je lui ai échangé des trucs sur autour d'un mec qui s'appelle LB Akalabat, qui est un mec qui fait de la musique électronique aujourd'hui, entre mainstream et underground. C'est le truc un peu à la mode, tu vois, de reprendre notamment les cultures un peu UK, tu vois, UK, genre drum and bass, etc. Et il m'a renvoyé vers un truc un peu moins connu, un type qui s'appelle The Caracal Project, qui est français d'ailleurs. Et effectivement, il y a une espèce de renouveau ces derniers temps de la drum and bass de partout, y compris en Angleterre, souvent avec des aspects très mélodiques et tout. Et donc, il y a aussi un type, donc The Caracal Project a fait un featuring avec un autre artiste qui s'appelle Maysef. Et il y a un morceau que je trouve hyper bien. Et globalement, j'invite à écouter les deux artistes. Vous allez me dire si vous aimez bien, c'est parti. Before You s'appelle. Allez. Thank you.
J'aime bien ces trucs où l'artiste se dit ça fait quoi ça? Et il l'active et le plugin.
Non mais c'est super rythmiquement, c'est vachement riche. Et ça me fait penser à un truc de jazz. Je sais pas si tu veux, si on a le droit de mettre encore un tout petit début de morceau.
Vas-y, allez.
C'est Lingala, L-I-N-G-A-L-A, de Miguel Zenon, c'est le SF Collective, donc c'est du jazz. Mais par contre, au niveau rythmique, il y a un espèce de feeling, tu vois, il y a une intro qui est très afro.
Ouais.
Un truc ternaire comme ça, exactement comme ce qu'on ressentait là.
Ouais.
Et puis après, à un moment donné, ça switch et l'effet, il est démentiel. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti là.
C'est vrai ouais. Attends, donc tu m'as dit Lingala de Miguel. Allez.
Miguel Zenon, SF Collective. SF Collective. Okay. C'est San Francisco Collective. Et Lingala, c'est une compo de Miguel Zenon.
Ok, je l'ai. Et bah écoute, attends, vas-y. Il y a un moment précis, genre qui.
Ouais, le début.
Ah, oh, c'est pareil.
Aucune différence.
Non, mais écoute le groove.
Ouais. Ouais, je capte.
Attends, tu vas voir, c'est après.
Ouais. Mais déjà, là, il y a les deux.
Ouais.
Switch a fait des morts dans la salle de concert là.
Trop beau. Le Switch c'est incroyable, non?
Incroyable. Ouais, magnifique.
Effectivement, il y a cette espèce d'ouverture comme ça, du coup, qu'on trouve beaucoup dans les musiques électroniques. De toute façon, c'est vrai.
Le filtre,
c'est... Oh, bah ouais, à fond. mais et d'ailleurs, on devrait mettre plus de filtres dans les jazz d'ailleurs. Dans le jazz, quand
c'est jazz filtré. Alors,
il y a eu la house filtrée. Pourquoi pas le jazz filtré?
Bon, ça doit exister quelque part. Ça,
absolument.
Dans Internet quelque part sur YouTube.
Mais c'est pas complètement délirant les parallèles parce que dans le morceau que j'ai mis juste avant, par exemple, après, il se termine sur une partie acoustique, la guitare acoustique, etc. Enfin, bref, il peut y avoir plein de parallèles de façon possible. Bon, Leïla Olivesi, Flor Benguigui. On rappelle, toi, Leïla, le dernier album qui commence déjà à avoir. Je suis sûr que tu travailles sur autre chose, non? Pour bientôt.
Bah là, en fait, on travaille sur la tournée. On va tourner tout l'été. On va aller à Nouakchott et à Saint-Louis au Sénégal au mois de mai. On va aller en Guadeloupe en juin, à Marseille, Jazz des Cinq Continents. Marseille Jazz des Cinq Continents en juillet.
Okay.
Au New Morning le 18 septembre.
Trop bien.
Et ensuite, on va aller au Portugal. Wow, enfin voilà, donc là pour l'instant on travaille sur la tournée et puis je réfléchis à peut-être faire un vinyle quand même. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça serait chouette.
Moi je dis oui, obligé. Allez.
Ouais, ça serait chouette.
Donc bientôt African Rhapsody en vinyle et puis aller te voir en concert. Flore, toi, l'album vient de sortir, I330, et j'imagine qu'il va y avoir aussi quelques dates.
Oui, bah on a fait une date au New Morning pour la sortie, qui était la semaine dernière. Et oui, on n'a pas encore annoncé, mais il y aura aussi quelques festivals cet été, plutôt en France et à Montréal aussi. On va jouer. Ça a été annoncé, on va jouer au Festival de Jazz de Montréal, avec La Machine aussi, du coup, qui est un sacré truc à transporter.
J'avais dit qu'on en parlerait, mais c'est vrai qu'il est déjà un peu tard.
Oui.
On doit libérer Leïla. Mais
t'as créé avec ta sœur.
C'est ma sœur qui l'a créé, oui, c'est pas moi.
En gros, des contrôleurs.
C'est pas des contrôleurs, il n'y a pas d'ordinateur.
Il n'y a pas de contrôleur MIDI.
Il n'y a pas d'ordinateur.
Mais qui contrôle les synthés.
Il y a des petits claviers qui contrôlent des synthés, mais c'est que des synthétiseurs. Elle a créé une machine qui rassemble mes synthétiseurs, mon vocodeur, des effets. Et du coup, c'est une machine un peu. Qui n'existe pas, quoi.
C'est la machine.
Qui n'existait pas avant. Elle s'appelle I330. Donc, c'est pour ça que c'est le nom de l'album aussi. Okay. C'est le nom d'un personnage féminin rebelle dans un roman dystopique russe des années 20.
Wow. Okay.
pour faire très vite. J'essaie de faire très vite, là.
Aucun rapport avec la Hyundai I330. Alors, parce que je me disais
pas
pourquoi.
Du tout. Non. C'est un roman qui s'appelle Nous, qui est un roman dystopique, celui qui a inspiré 1984, donc d'une société fasciste un peu flippante, un peu qui ressemble un peu beaucoup à la nôtre aussi, et donc il y a un personnage féminin très stylé qui s'appelle I330. Voilà.
Et nous, ça veut dire alors en russe.
Ah c'est vrai, non mais
maintenant.
Je pense que c'est.
Ah c'est traduit.
C'est traduit.
D'accord.
Non c'est ouais, okay. Parce que en anglais c'est oui.
Ah ok.
Donc je pense que oui, ça, d'accord. En l'occurrence. Mais peut-être qu'il y avait un jeu de mots, je ne sais pas.
J'ai découvert d'ailleurs avec la machine que vous avez faite, avec I330, qu'il y a dessus, il y a un synthé de la marque Criterion Guitari.
Ouais,
que je connaissais
il y en
pas.
A deux. Ouais.
Donc il y a l'organelle, et alors, mais l'autre, justement, il est étonnant parce que c'est le IC. En fait, il génère de la vidéo, c'est ça?
Ouais.
Du coup, quand je joue. Tu vas l'utiliser en live et tout?
Ah ouais, et c'est dans la machine, ouais. Quand je joue, ça génère des petites images un peu marrantes.
Trop rigolo.
Ouais.
Donc, ouais.
Voilà,
une raison d'aller voir
tournée,
ça en live, ouais, effectivement,
en
live. Pour voir la machine.
Ça rend moins bien sur Spotify, c'est sûr.
Ok. Clairement.
Bon, ouais, et puis évidemment, merci à tous ceux qui ont permis de faire cette émission.
Bien
à
sûr.
Flav. Flav, il était un peu tout seul.
Flav aujourd'hui, solo. Là, ouais.
Avec Alexis, quand même.
Ouais, Alexis.
Ils ont préparé ça.
Et Jean-Luc au soutien moral.
Absolument. Pour la technique. Merci à François pour le montage, évidemment. Merci à Thoman, grâce à qui on fait cette émission.
Merci.
Merci à vous.
Ben, avec plaisir.
Merci,
merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous avez déjà acheté des trucs chez Thoman, je suis sûr.
Oui.
Ah oui.
Ouais, ouais.
Voilà. Cliente beaucoup régulière,
trop,
même.
Beaucoup trop.
Ben, vous avez bien raison. Et ben, merci, Willila, Flore. Merci à nos auditeurs aussi, quand même,
oui.
Qui nous ont écoutés. S'ils sont encore là, ils ont écouté quasiment 2 heures. C'est que c'est des vrais. Donc, on les remercie absolument.
Ils ont écouté 2 heures.
Ouais.
Bisous, la famille.
Et puis, on se retrouve, de toute façon, dans 15 jours.
Yes. Connaissent déjà le programme, en plus.
Ben oui, on va parler. En vrai, ça va être hyper intéressant. Comment on organise des tournées? Quels sont tous les défis autour du fait, voilà, de faire tourner des artistes. Comment ça se passe en fonction des professionnels? On va recevoir des gens de plusieurs boîtes différentes.
Je me pose cette question tous les soirs avant de dormir. Moi, je me dis, comment?
Moi aussi, ça m'obsède, Daz.
Comment?
Ça m'obsède. Et bah, rendez-vous dans 15 jours.
Voilà, exactement.
Ça sera très bien.
Ciao, ciao.